de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 30 mai 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 31 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons.
Résistons, poil au menton. Et voilà. Ce soir, quoi, ça vous plaît pas, monsieur le barin? Vous
n'êtes pas...
Non. Même pour ricaner, il vaut mieux ricaner dans le micro.
Alors je ricane dans le métro.
Il a levé les yeux au ciel quand j'ai dit ça. Vous vous rendez compte? C'est ça la confraternité. Bravo. Alors autour de cette table, le clan de la presse est réuni sous la haute direction spirituelle de Victoria. Il nous a fait une présentation générique canon.
Admirable.
Très réussi.
Hein, très très bien. Elle est très bien.
Non, je ne sais plus.
Incroyable. Brillant.
Arrêtez.
Coruscante. Tiens, capricante même. Autour de cette...
Et même guillerette.
Avec un éclat yalin.
Ah oui, un peu yaline. Vous avez raison. Hein, oui, un petit éclat. Ça lui plaît pas d'être yalin.
Je ne peux plus, il va falloir que j'aille chercher le dictionnaire, je vais passer une heure.
Fais pas ton yalin. Alors, donc, autour de cette table, Camille Galli, bonsoir Camille.
Bonsoir.
Jean, directrice de Rivarol, Jean Madiran, directeur de Présent.
Bonsoir Serge.
Jean-Claude Varane, directeur de National Hebdo.
Bonsoir
Jean-Claude. Emmanuel Ratier, directeur de Faits et Documents. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Et, comme d'habitude, Claude Giraud nous manque, elle nous manque beaucoup, mais vous connaissez l'extrême délicatesse de Claude, c'est du scrupule presque, un jésuite dirait que c'est du scrupule, voilà, c'est ça. Hein. Et comme elle a eu son émission sur Radio Courtoisie, elle répugne à être présente, à imposer sa présence d'une manière abusive aux auditeurs qui pourtant ne demanderaient que ça. Mais qu'est-ce que voilà,
c'est parce
lui, il n'a pas ses préventions.
Parce qu'elle est son émission. Je lui ai fait observer qu'à ce compte-là, Serge, vous devriez aussi être absent de l'émission que vous organisez.
Oui, c'est vrai, d'ailleurs, au fond, c'est un peu paradoxal. Bien, alors, le clan de la presse, les auditeurs savent maintenant ce que c'est. C'est la réunion des... tiens, voilà le fax. Ah, je voudrais...
Oui.
Je viens de recevoir un fax. Ils veulent assassiner le front aux armes citoyens. Alors, monsieur le faxeur anonyme, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut défendre le front, première chose. Deuxième chose, Camille Gallic et moi-même, et je pense Ratier, et je crois même Jean Madiran, je ne sais pas, je ne veux pas parler à sa place, et peut-être même Jean-Claude Varane, nous sommes absolument d'accord avec vous pour combattre avec la dernière énergie les irruptions de la néolangue, du langage moderne dans notre discours quotidien ou dans nos journaux. Mais il faut que vous pensiez une chose, c'est qu'on est des petits journaux qui ont très peu de moyens, et quand vous avez la gentillesse de nous envoyer 2, 3, 4, 5 fax par jour qui dénoncent les propos, l'usage de certains mots modernes sur Radio Courtoisie, que vous nous envoyez ça à nos journaux, ça nous bouffe du papier, ça nous bouffe de l'encre de fax, et ça nous coûte une fortune.
Alors, oui, c'est tout à fait antagoniste avec la défense du franc.
Voilà, c'est ça. Donc si vous vouliez avoir... Je reconnais la source du fax qui est anonyme, sinon je vous aurais répondu depuis longtemps pour vous supplier de borner vos élans scripturaires au minimum supportable pour nos minces finances. Donc, soyez gentils, ne nous inondez pas de fax, parce que moi, je n'ai pas les moyens de dépenser un rouleau de fax par jour. Je ne sais pas, Marie-Camille, qui est beaucoup plus riche que moi.
Non,
mais
c'est... En plus, il faut les porter, les rouleaux, les pages.
Donc, s'il s'agit de
fax,
de radio
et quelquefois, quand on reçoit trop de fax qui n'ont aucun intérêt, il se trouve qu'il y a un bourrage. Et on est privé de fax jusqu'à ce qu'on ait dépiauté le télécopieur, enfin en tout cas le nôtre.
Oui, ça provoque le bourrage, effectivement. Ça risque de provoquer le bourrage, et puis ça des dépenses inutiles si c'est pour nous convaincre. Nous sommes convaincus, oui.
Et en plus de ça, ce qui est peut-être aussi un peu dramatique, c'est que le fax important peut, dans la liste des sacs, est noyé.
Donc, et puis, il peut aussi ne pas passer parce que la ligne est occupée.
Le bourrage.
Parce qu'il y a eu justement trop de bourrage en mémoire.
Alors, pour parler en termes de fax, le bourrage et le raturage de cette fois ne sont pas les deux mamelles de la France.
De la défense du franc.
Bien. Ces choses-là étant dites, nous passons à l'actualité. Alors, Marie-Camille, puisque vous êtes la première en partant de la gauche, ce qui nous arrive assez rarement. Qu'est-ce qui vous paraît digne de retenir l'attention?
Je crois quand même que on nous a fait miroiter pendant toute une semaine à ce que Monsieur Jospin allait être candidat ou pas, qu'il avait Sylviane, il avait le théâtre, il avait le cinéma, il avait le sport, il n'avait aucun besoin d'être candidat pour remplir sa vie. Il n'y a pas que la politique dans la vie, ce qui me paraît d'ailleurs bizarre de la part d'un Premier ministre pour lequel il me paraît qu'il ne doit y avoir que la politique dans sa vie, sinon il fait autre chose. Mais en tout cas, on a eu la preuve que Monsieur Jospin serait candidat avec sa réputation devant le Parti communiste.
Et puis, d'une façon moins directement politique et beaucoup plus médiatique, avec l'incroyable numéro de clown, il n'y a pas d'autre mot qu'il a fait pour c'est le Figmag ou Paris Match,
pour le Figaro Magazine.
En train de faire ses petites coupes courques avec sa petite dadame, en train d'aller jouer au tennis sur un court public avec son fils, en train de
d'attendre un avion
dans une salle d'attente comme tout le monde. Alors, moi, je veux bien qu'on nous prenne pour des coins, mais il faudrait quand même peut-être un peu limiter. Quand on sait qu'il n'y a pas un homme politique français qui peut se déplacer autrement qu'entouré par 200 policiers, sous peine de quoi le premier passant venu le giflerait d'une façon qui me paraît d'ailleurs à la fois...
Ou
l'entarterait, ce qui me paraît d'ailleurs la moindre des choses. Enfin, tout le monde sait que dès que Jospin sort de son bureau de Matignon, il évolue, comme Chirac d'ailleurs, comme n'importe quel ministricule, au milieu d'un essaim de flics. Alors, que les journalistes du Figmag nous bourrent le crâne en disant qu'il attend son avion comme tout le monde à l'aéroport. Bon, c'est le travail normal d'un journaliste de Figmag de mentir. Ils ont fait ça pratiquement toute leur vie. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent aujourd'hui. Pas tous, mais certains. Que Jospin se prête à cette guignolade, ça montre le sérieux du bonhomme. Une semaine après qu'il ait dit qu'il n'avait pas besoin de politique pour vivre.
Non, mais c'est surtout qu'en plus, il marque à la culotte François Hollande, Ségolène Royal,
Paris Match,
qui ont eu 6 pages de photos dans Paris Match, qui ont été diversement appréciées à l'intérieur du Parti Socialiste, parce qu'il y avait notamment une espèce de règle non écrite au Parti Socialiste. J'ai découvert qu'il y avait une règle non écrite qui disait qu'il ne fallait pas faire apparaître les enfants.
Avec Ségolène Royal, c'est difficile, parce que c'est son seul intérêt, c'est d'avoir des enfants.
Et donc, comme il y a eu 6 pages de reportage ou 8 pages de reportage photographique dans Paris Match il y a 15 jours, Jospin ne veut pas être en retrait, donc on lui a offert un reportage...
Dans le Figaro. Avec ses enfants.
Non. On le voit avec un de ses fils.
Au tennis avec un de ses fils.
Un des fils de son premier mariage.
Ah, en plus.
Voilà.
C'est un homme divorcé, je crois.
Oui.
Bah, c'est du propre, tiens. Premier ministre divorcé, on a vraiment tout.
Et je crois que son beau-père était... Son épouse, Sylvia Nagasinski, a elle un enfant, mais de Jacques, du philosophe Jacques Derrida.
J'ai eu peur, quand vous avez dit de Jacques du philo...
On a envie de retenir un petit de toutes ces
Vous avez dit... Vous voyez comment on peut faire mentir. Si on prend la bande, ce que vous venez de dire, vous avez dit, elle a un enfant de Jacques du philo, du philosophe. Donc, si on coupe là... Un enfant de Jacques Dufilho. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je connais personnellement Jacques Dufilho, je ne le vois pas en train de se livrer à ce genre. Enfin bon, tout ça ne me regarde pas, mais quand même. Donc c'est Jacques Derrida.
Oui.
C'est bien. Alors, un commentaire,
oui,
M. Varane,
sur le Premier ministre est en train de jouer les guignols. À Bruxelles, il a fait des déclarations sur l'Europe. C'est à où, à Strasbourg, je crois.
Non, c'est à Paris.
Ou à Paris, oui, pardon. Au cours d'une conférence de presse. Merci. Complètement stupide sur l'Europe. Dans l'affaire de se montrer dans Paris Match...
Pour l'Europe fédérale des nations, c'est
oui,
ça.
Oui, absolument. Et alors, le problème, c'est la guignolerie qu'il est en train de jouer à l'heure actuelle avec le Parti communiste. Là, il s'est déculotté devant le Parti communiste en reportant dans quelques jours les décisions qu'il devait prendre. Moi, je crois que la gauche plurielle est en train d'éclater et que ce qui est en plus de ça extraordinaire, c'est qu'ils ont peur tous maintenant d'Arlette Le Guyer. Monsieur U ne pense qu'une chose, est-ce que je vais passer au présidentiel avant ou après Arlette? Je pense que c'est l'éclatement de la gauche plurielle.
Il y a un recentrage autour de... leurs intérêts sont trop liés.
Oui, mais
le PC a absolument besoin que Jospin fasse un bon score à la présidentielle pour avoir le maximum de voix tout de même aux législatives pour avoir le financement du parti. Et de son côté, Jospin a absolument besoin des voix des communistes. Donc, c'est un poker, à mon avis, c'est un poker menteur. Enfin, ce sont des chantages croisés.
Ce qu'on comprend mal, c'est la raison pour laquelle Jospin n'a pas sauté là sur l'occasion d'enfermer U dans le cabinet, parce que il aurait dit, bon bah écoutez, si vous voulez voter avec le patronat le plus réactionnaire contre des mesures qui sont des mesures d'intérêt social pour la classe travailleuse, hein, c'est-à-dire la limitation des licenciements, il aurait poussé U à la faute, et en réalité il le poussait à la faute, et donc il remettait encore plus clairement la Guillet et l'extrême gauche en position de force. Et là, il s'est privé de cette occasion de donner de mettre le dos au mur. Pourquoi il a fait ça? Voilà,
la raison, je dirais, c'est que ils sont structurellement liés l'un à l'autre. Parce que, pour une raison, parlez là même leurs disputes, et leurs disputes font partie de leurs disputes, c'est qu'ils mettent le plus haut prix chacun de son côté à la collaboration inévitable qu'ils doivent échanger. Car, enfin, Jospin n'a aucune chance d'être président si le Parti communiste est contre lui. Et on parle que sur le champ, c'est pour prévoir des parcours formidables, mais normalement, Jospin n'a aucune chance s'il y avait une brouille avec le Parti communiste qui dise Jospin Chirac ou Jospin je ne sais pas qui, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet, comme le Parti communiste a pu le faire. Bien. Et d'autre part, la seule chance que eut et de conserver ces suffrages dont parlait Camille à l'instant, qui sont très importants, et ces députés. La seule chance qu'il ait, c'est l'investiture communiste, l'investiture socialiste à des candidats communistes, ou à des sortants communistes, comme candidat unique de la gauche. Parce que, comme il est, s'il se retrouve seul devant les élections, il est un peu dans la même position que les Verts. Avec la loi électorale actuelle, les sièges, à part peut-être quelques exceptions, les sièges aux élections qu'auront les Verts ou qu'auront les communistes, sont des sièges qui auront été négociés avec le Parti Socialiste et que le Parti Socialiste leur aura donné. C'est-à-dire que dans la circonscription, le Parti Socialiste votera pour eux.
Mais,
donc,
mais...
Il y a un, comment dirais-je, quelle que soit leur pensée ou arrière-pensée, ils ont besoin politiquement l'un de l'autre. Il arrive que des gens qui ont besoin l'un de l'autre se séparent parce qu'ils le veulent, parce qu'il s'est passé des choses qui ont contraint leur volonté, mais autrement, là, je crois que structurellement, ils ont besoin de l'autre, et ça, c'est plus profond quand on parle de l'éclatement de la gauche plurielle, il faut bien, de la majorité plurielle, il faut bien penser quand même que cette gauche plurielle ou cette majorité plurielle n'a d'existence que dans les limites de la tactique électorale. Elle n'a pas vraiment eu de programme commun. C'est une des choses que Chevènement a raison de souligner quand on lui parle de la majorité plurielle. Mais rien, c'était une combi. Il n'emploie pas le mot, mais c'était une combine électorale. Mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas plus loin. Donc je crois que.
En fait, le problème, il vient à la base. Bon, Camille en parlait tout à l'heure. En fait, c'est l'inversion du calendrier électoral.
Voilà.
Donc on commence à percevoir les conséquences. Et à partir du moment où on a l'élection présidentielle avant les législatives qui vont être très très rapprochées, le résultat qui va être réalisé par chaque parti, par chaque candidat d'un parti au premier tour des présidentielles va se refléter nécessairement pour les législatives. Et si, comme c'est bon, si Robert Rue fait un score misérable en dessous de 5%, c'est même envisageable aux prochaines élections présidentielles, il risque de fortement perdre aux législatives. Et pour le moment, ce qu'ils veulent conserver, c'est leur groupe législatif. Ils savent très bien qu'ils n'ont aucune chance d'accéder à la présidence de la République.
Je rappelle que ce groupe législatif n'existe pas que parce que la droite l'a bien voulu.
Voilà. Oui, en baissant le nombre.
Élus requis. Bon. À 20. Sinon, il n'y aurait plus de groupe communiste.
Oui, mais ça, c'était avant la dissolution. Parce qu'à présent, ils sont 35, comme ça.
Mais on peut pas dire,
justement, ils veulent garder assez de députés pour avoir un groupe, puisque comme ils sont communistes de droit divin, n'est-ce pas, la droite, la première, baissera le chiffre. S'ils ne sont que 3, ça sera baissé à 3.
Mais un des problèmes...
Mais indépendamment du rôle très, très important que joue l'inversion du calendrier, comme vous l'avez souligné, même s'il n'y a pas cette inversion, même s'il y a l'influence très grande de la présidentielle sur la législative, il y a le mode de scrutin et le mode de scrutin qui fait que les réélections communistes dépendront des partis socialistes. Oui. Alors tout ça, ça se monnaie. Et il n'est même pas dit que dans leur conversation, soi-disant, l'extension des droits des comités d'entreprise, n'est-ce pas, il n'est pas été question, au téléphone ou par envoyé particulier, il n'a pas été question déjà de cet échange.
Maintenant, attention, est-ce que s'il y avait un changement d'élections aux législatives et que la proportionnelle rentre en jeu, peut-être que Jospin pourrait se dire je perds ma position avec les communistes, mais je vais gagner avec les Verts et avec la Guillet.
Mais il ne semble pas qu'on aille vers un changement avant les prochaines élections législatives. Enfin, on ne veut pas savoir ce qui se passera, mais il ne semble pas. Je pense que ça fait d'ailleurs assez râler les Verts, qui en ont pris acte, en tout cas.
Enfin, maintenant que la droite nationale a explosé, de toute façon, ça ne les arrête plus. Ils pourraient très bien le faire s'ils ont envie de le faire. Ça, parce que ça rendra service qu'aux Verts, ça c'est clair. Oui.
Mais un des éléments qui risque d'apparaître quand même aussi, c'est que à partir du moment où il va y avoir des circonscriptions certainement négociées avec les Verts, qui demandent entre 30 et 40 circonscriptions sûres, plus le Parti communiste, il y a d'autres partis de gauche qui ont l'intention de présenter des candidats.
Oui, mais ils vont les prendre où ?
Et qui peuvent. Ils vont les prendre au MDC. Le mouvement des citoyens a l'intention de présenter systématiquement, parce qu'ils ne se considèrent pas intégrés à la majorité plurielle. Donc ils ont l'intention de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions où il y aura des Verts, où il n'y aura pas de candidats socialistes. Et ils ont sans doute l'intention d'en présenter également chez les communistes. Et il y a
pour le nombre de voix total.
Et il y a le Parti radical de gauche qui a également l'intention de présenter un certain nombre de candidats. Et par exemple, le député socialiste du Havre, qui avait été exclu parce qu'il a monté une liste aux dernières municipales concurrentes de la liste communiste, vient d'adhérer aux radicaux de gauche. Et les radicaux de gauche ont l'intention de faire une percée aux prochaines législatives. Le jeu est très très ouvert.
Mais parce qu'il y a aussi cette idée, c'est que ils engrangent des voix pour engranger un financement.
Voilà, alors je crois que c'est ça le point intéressant. Enfin, c'est le point clé, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est bien clair que tous ces gens-là, que ce soit du RPR, le RPR, les centristes, les radicaux de gauche, les socialistes, tout ça, ils obéissent exactement aux mêmes gens. Ils ont les mêmes patrons. Donc, le fait de savoir que Chirac sera président de la République ou Jospin président de la République, ça ne changera strictement rien, absolument rien à la politique française des années à venir. Leur projet est le même pour l'Europe, c'est-à-dire leur projet, leur prosternation est la même devant les maîtres cachés de l'Europe. Et on voit bien qu'en politique intérieure, on a vu le discours de Chirac devant les associations de parents d'élèves, devant l'association de parents d'élèves, où il a fait un discours qui était exactement le décalque du discours de Lang, du discours de Mélenchon et du discours d'Allègre. Donc, maintenant, tous ces gens-là sont d'accord absolument sur tout. Parce qu'ils sont d'accord comme les domestiques d'une maison.
Parce qu'on les a mis d'accord.
Le discours de Bordeaux est totalement, aurait pu être tenu absolument, par...
Voilà.
C'est totalement interchangeable.
Ils sont exactement dans la situation des domestiques d'une grande maison qui font ce que le patron dit. Ils sont d'accord, même s'ils n'aiment pas la couleur des papiers muraux, ils font le ménage dans les pièces.
Même pour l'Europe, puisque dans le fond, Jospin et Chirac tiennent à peu près le même discours.
Donc le bout de l'explication de tout ça, c'est que ces gens-là, individuellement, ces mafias politiques et ces mafieux politiciens, ils veulent du fric. Mmh. Ils veulent du petit pouvoir pour pouvoir gagner un peu plus de fric et pour pouvoir faire notamment ce qu'ont fait les socialistes, les communistes et le RPR avec les lycées de Paris, c'est-à-dire se partager le butin volé aux contribuables. Mmh. C'est le seul objectif politique actuel de ces mafias. Je crois que c'est ça le résumé de ce qui se passe en ce moment. Et tout le discours politicien ou prétendument politicien autour de ça, de savoir si Jospin soutient, permettra à U d'avoir des députés en nombre suffisant ou si U permettra à Jospin de réussir, c'est tout simplement, ça va se négocier au partage du butin. Mmh.
Et d'ailleurs, le butin s'agrandit puisqu'il y a une quinzaine de jours a été voté dans la plus parfaite indifférence au Parlement européen, le principe d'un financement maintenant par l'Union européenne des partis politiques. Tout parti politique s'est passé alors dans la plus totale indifférence, ça devrait démarrer à partir de novembre. Les partis politiques qui pourront faire alliance avec des partis d'autres pays, mais uniquement une espèce d'alliance électorale, en disant on se rattrache au Parti populaire européen ou au Parti socialiste européen, toucheront à partir de maintenant des subsides en fonction du nombre de voix et en fonction du nombre de députés qu'ils auront obtenus pour toutes les questions relatives à l'Europe. Et c'est un truc, personne n'en a parlé, et ça va se chiffrer par dizaines de millions.
Ok, donc sur ce sujet, pas d'autres commentaires ?
Non. Enfin, on voit en tout cas le parti dont on nous disait qu'il était moribond ou qu'il garde tout de même une certaine capacité de nuisance.
Et puis quand même, non seulement il garde la capacité de nuisance, enfin, il garde le poids dans cette sphère de politique française, mais il ne faut pas oublier que l'éducation nationale est marxisée jusqu'à l'os, que la culture audiovisuelle est une culture marxiste-léniniste, et puis après tout, U et Jospin, c'est l'ancien point d'interrogation trotskiste et l'ancien point d'interrogation stalinien qui se rencontrent aussi facilement que peuvent se rencontrer deux tendances jumelles du même communisme.
Oui, à condition de ne pas laisser traîner deux haches. De pique à glace. Oui. Je disais de vache, c'était pas, je parlais pas de l'herbe. L'affaire Pasqua, ça vous inspire un commentaire ?
Ah oui, mais à vous Camille, parce que je ne peux qu'applaudir celui que vous avez déjà fait dans Rivarol et que j'ai cité et qu'on va pas pleurer sur Pasqua, parce que il a été non seulement d'une grande insensibilité. Quand il dit, j'ai dit que je vous laissais la parole et je la prends, mais simplement
pour citer Rivarol, je vous en prie. Non, c'est pour
y ajouter, parce que quand il dit en sortant de chez le juge d'instruction, La décision a été prise d'avance. Et j'ai pu parler, j'ai pu dire ce que je voulais pour montrer qu'il n'y avait rien. J'ai pas été entendu. Il éveille en outre un souvenir qui pourrait, si c'était pas lui, m'éveiller une sympathie. Parce que combien de fois nous est-il arrivé d'avoir affaire à des juges d'instruction, d'avoir affaire à des juges, d'avoir affaire à des cours d'appel et des cours de cassation qui se prononcent en ne tenant aucun compte de ce qu'on a dit. Mais ça a été principalement à le susciter contre nous par Pasqua et son chargé de mission Gobert. Alors, on ne va pas pleurer sur ces deux amis.
Ah non, non, quand je vous proposais d'avoir un commentaire, je ne m'invitais pas.
Même s'il peut, parce que pourquoi pas, même s'il peut y avoir contre lui tel procédé ou telle injustice ou que sais-je.
Enfin, écoutez, franchement, c'est un petit peu comme si on reprochait on disait que les incorruptibles ont été désagréables avec Al Capone quand ils l'ont mis en arrestation. Parce que que monsieur Pasqua vienne se plaindre des méthodes obliques de la justice, quand on sait quelle méthode elle a utilisée, lui, quand il était...
Et qu'il a utilisé spécialement contre nous.
Contre nous. Ce qui lui arrive, ça, c'est selon une phrase que vous avez, Jean Madiran, immortalisée. Odiemi, crastimi. Autrement dit, les ennuis que tu me fais aujourd'hui, ce sera des crasses que tu auras demain.
Non, parce que la persécution contre notre presse n'a jamais été aussi fulgurante, comme disait Gobert, que quand Pasqua a été au ministre
l'homme
de la
Défense
de 1993
à
1995.
Et de 86 à 88. Et
ils ont bien dit la faire disparaître.
Et c'est là où ils ont pris le plus d'arrêtés d'interdiction de journaux et de livres. Notamment.
Il s'agit de faire disparaître une presse qui paraît légalement.
Vous croyez qu'on lui a offert une usine plaquée or uniquement parce qu'il était un gentil ministre de l'Intérieur? Non, il y a probablement d'autres raisons.
Non, mais même se retourner, enfin, trop dans le lointain, bon, enfin, il n'a pas été seulement ministre de l'Intérieur, hein, puisque ça a été le principal responsable du SAC.
Oui.
On a bien oublié qu'il s'attaquait aux militants nationaux, et on sait très bien d'où est issu le SAC. Ils sont issus des mouvements anti-Algérie française. Ils ont persécuté les gens. Ils s'appuyaient sur la gauche. À l'époque, c'était le tandem Pasqua-Seguin. Pasqua qui se trouve dans la région marseillaise. Seguin qui se retrouve responsable de l'UNEF à Aix. Ils se connaissent parfaitement. Et à l'époque, on demandait aux gens de l'UNEF de dénoncer les militants nationalistes. Et ensuite, c'était la police gaulliste parallèle qui s'en occupait. Maintenant, bon, le SAC a été dissous en 81 ou en 82, mais on a oublié. Et c'était quand même Charles Pasqua qui en était la tête. Bon, et pendant des dizaines des années, on a arrêté des gens qui faisaient des hold-up, des trafics d'armes, trafics de fausses monnaies, etc. Et comme par hasard, ils avaient une carte du SAC. Et à chaque fois, on disait c'était des brebis galeuses. Hein? On a oublié l'époque des pompes bicolores noires et blanches de Monsieur Pasqua. Moi, je me souviens, les premiers articles qui sont parus quand il est devenu sénateur, tous les gens étaient horrifiés. Et puis, il y a le passé qui revient.
C'est quand même extraordinaire, d'ailleurs,
comme
que ce soit...
Comme disait Anglais, nos péchés ont de longues ombres.
C'était Agatha Christie qui disait ça.
C'est un proverbe anglais.
Ah oui.
Alors, la dulcité.
Elle c'était... Nos vieux péchés ont de longues ombres. Donc, on est bien content au fond, de ce que le vieux Charles est en train d'avoir.
Oui, à moins qu'il se trouve bientôt à l'ombre.
Pour le moment, le moment d'ailleurs, il a encore quasiment rien. Hein.
Peut-être pas le plaindre. De toute façon, il bénéficie de son immunité parlementaire européenne. À la limite, le seul qu'on pourrait plaindre, c'est Alain Robert, qui est son suivant de liste, enfin, et qui espérait, à la suite de la démission de Charles Pasqua, qui était programmée, devenir enfin quelque chose. Pour un ancien secrétaire général d'Ordre Nouveau, ça aurait été bien, qu'il avait tout trahi.
Belle promotion.
Et alors, il espérait enfin devenir
un député européen. Le cumul ne joue pas encore puisque son élection est contestée.
Voilà.
Oui.
Alors il reste donc député européen.
Ah, c'est bien terrible ce qui lui arrive à son pauvre homme.
Je l'avais terrorisé, Charles Pasqua.
C'était lui qui voulait terroriser les terroristes. Il ne faut pas oublier ça.
Il y a une chose qui vient d'arriver là tout de suite, c'est les sanctions qui viennent de tomber dans l'affaire Dumas. C'est tombé il y a quelques heures. Ils choquent tous quand même. Dumas prend 2 ans. Sirvaine prend 5 ans. La fille prend je ne sais pas combien.
Le floc
prend 4 ans.
Ferme ou...
Ah oui, il y a du ferme.
Ah oui, ah, oui, tous, oui. Tous sont de la prison ferme.
Tous sont de la prison ferme.
Ah oui, oui, tous sont de la prison ferme. Celui qui en a le moins, c'est Dumas qui a 6 mois de prison ferme. Naturellement, ils font appel, c'est-à-dire qu'ils n'entrent pas encore en... Ils n'ont pas été arrêtés à l'audience, mais...
C'est dommage, ça, quel beau spectacle. Ils auraient croisé Pascoin.
Mais ce que je trouve quand même dans cette affaire, c'est que finalement, on n'a pas creusé, on n'a pas expliqué. On ne sait pas entièrement ce qui s'est vraiment passé.
Non, mais l'affaire n'est pas finie. Hein.
On ne sait
ah ben
rien.
Oui, mais alors justement...
On n'a que quelques... On a de l'écume.
On a de vagues soupçons quand même.
Alors, ils sont... Ils sont
il faudrait un nouvel Alessandro Dumas pour espérer savoir un peu ce qui s'est réellement passé. Vous savez ce qui s'est réellement passé dans l'affaire du masque de fer?
C'est vrai.
Ou de la dame de Montsoreau, ou de... etc. Non, etc.
Enfin, ce qui est extraordinaire quand même, bon, c'est de... Parce que les gens oublient, bon, c'est de se souvenir quand même du pédigré de ces gens-là. PDG d'Alpha Aquitaine, ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel, député, avocat, etc. Des personnalités immenses, bon, qui se sont trouvées sur toutes les scènes internationales.
Le Floch a menacé, mais il a donné dans sa grande interview, là récemment, où il menaçait, il a dit la vérité quand il a dit que c'était une politique d'État, que c'était...
Ça datait de De Gaulle.
Que d'après Mitterrand, ça datait de De Gaulle, que je crois volontiers d'ailleurs, oui, surtout pour elle. Mais que ça faisait pas une politique d'État et qu'ils étaient couverts, autant couverts que d'interrogatoires de terroristes.
Comme diraient les francs-maçons, on se croyait couverts et pourtant il pleut des condamnations.
Et oui. Non mais. Et alors le Floch, il est au pied du mur, hein. Est-ce qu'il va nous raconter ce qu'il sait? Il racontera pas ce qu'il sait.
Ben, il y a Sirène et... non plus, lui il veut pas parler.
Ah mais Sirène il veut pas parler pour la raison mais pour c'est... laquelle d'autres parlent, c'est qu'ils disent tant qu'on sépare pour nous condamner de l'affaire des frégates, on n'a pas l'occasion de dire ce qu'on a à dire. C'est... Et peut-être qu'ils veulent pas non plus qu'on dise ce qu'ils peuvent, qu'ils disent ce qu'ils ont à dire sur l'affaire des frégates.
C'est à rapprocher de, enfin je veux pas me citer, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas par hasard, je parlais des mafias. Ce sont des mafias. Et quand Emmanuel évoquait tout à l'heure la dimension politique, l'envergure sociale des personnages,
oui.
Ça c'est exactement la technique de la mafia de Chicago à l'époque de Capone, où évidemment on mettait dans sa poche des sénateurs, des juges, des maires qu'on mettait en avant chaque fois qu'il y avait un problème. Donc la vérité c'est que pendant des années, on a dit, j'ai déjà dit ça, mais je répète, parce que c'est vraiment le fond de la question. Pendant des années, on a dit, les hommes politiques se laissent corrompre, se tournent mal et se corrompent. C'est pas vrai, c'est une interprétation exactement contraire de la réalité. C'est pas les hommes politiques qui deviennent des gangsters, ce sont les gangsters qui deviennent des hommes politiques. C'est-à-dire que les gens entrent en politique pour voler de l'argent. Parce que c'est beaucoup plus facile de piller une banque quand on en est le grand patron, que quand on est le patron du Crédit Lyonnais, de faire des magouilles avec des voleurs italiens, avec des mafieux italiens, avec des mafieux américains, pour acheter des fausses...
Ou des mafieux français,
comme Tapie. Ou des mafieux français. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de voler une banque avec une bande de types avec des fusils.
Une cagoule
d'abord,
et
bien sûr,
pistolets.
D'abord, parce que dans l'établissement bancaire où on va aller, si on arrive à piquer 50 ou 60 000 balles maintenant, qu'il faut prévenir 3 jours à l'avance quand on veut retirer 10 000 francs, c'est le bout du monde. Et ensuite, parce que là, on prend 20 ans ferme. Tandis que dans des affaires comme ça, on prend 3 ans ferme, 6 mois ferme, et encore, on va aller en appel, et là, on est sûr de ne pas être arrêté à l'audience. Le problème de la politique mondiale à l'heure actuelle, et de la politique mondiale, c'est ça, c'est que ce sont des gangsters qui sont au pouvoir dans tous les pays. J'entendais ce matin, par exemple, que l'État soudanais, ça fait rigoler, quoi, c'est pratiquement comme l'État français. Eh bien, a accepté sans broncher que les compagnies pétrolières fassent traverser son territoire national par un oléoduc qui a détruit des dizaines de villages. Les gars sont arrivés avec les bulldozers, ils ont dit aux villageois, vous avez une demi-heure pour foutre le camp. Les villageois ont pris leurs bagages, ils sont partis, et les bulldozers ont rasé les villages parce que l'oléoduc devait passer là. Ce sont des méthodes de gangsters. Ce sont des méthodes terroristes de gangsters.
Mais la mondialisation nous fera ça en France, nous fera des choses équivalentes en France, elle a déjà commencé, oui, selon ses besoins.
Le tracé du TGV,
pareil, c'est exactement
pour complaire aux amis de Mitterrand.
Pour... Oui, on a dépensé des milliards pour éviter un nid d'aigle.
Voilà.
Mais pendant ce temps-là, ça passe à proximité de village.
Enfin, Et ça passe dans des endroits extrêmement dangereux, comme cette colline, dont tous les géologues disent qu'elle ne demande qu'elle est extrêmement et que donc il peut y avoir des catastrophes.
Alors, puisqu'on parle de gangsters, de terroristes et de mafieux, on pourrait évoquer une visite qui va avoir lieu à Paris là, prochainement. Emmanuel, vous avez des choses à nous dire là-dessus ?
Non, mais enfin, c'était un des points. Bon, pour le moment, on n'en a pas beaucoup parlé. Bon, c'est plutôt de la politique étrangère. Bon, c'est un peu le rôle que se donne Paris, et notamment Jacques Chirac, dans les problèmes du Moyen-Orient actuellement. Où il n'y a pas eu tellement d'écho, je ne sais pas si c'est à cause de Love Story qui occupe toutes les gazettes, mais on a quand même eu la visite de Yasser Arafat à Paris. Bon, il y a eu quelques photos, il n'y a pas eu grand-chose. Bon, il y a eu la Houd. Il va y avoir le nouveau chef d'État syrien, Bachar el-Assad, et on a Ariel Sharon qui arrive à Paris la semaine prochaine. Bon. Et moi, je me demande si les visites des trois personnages dont j'ai parlé sont pas en fait des leurres destinés à équilibrer la visite d'Ariel Sharon à Paris. Parce que c'est quand même extraordinaire de voir le Premier ministre d'un État qui utilise des avions fantômes pour bombarder des territoires qu'ils ont occupés, qu'ils ont déclarés autonomes maintenant, qui détruisent, qui continuent les implantations contre la décision de tous les pays du monde,
Emmanuel,
des Nations Unies.
Ces avions fantômes, France va les acheter.
Oui, enfin bon, enfin, le modèle, je pense pas qu'ils vont acheter les avions israéliens.
Les drones israéliens vont être.
Il y a des centaines de Palestiniens qui ont été tués. Il y a eu quelques petites remontrances, etc. Bon, et il y a un Premier ministre pratiquement d'un État terroriste qui va être reçu officiellement à l'Élysée et à Matignon. Il y a pratiquement aucune... pour le moment, bon, enfin, il semblerait qu'il y ait quelques manifestations mais qui soient prévues, mais je pense qu'elles vont être interdites.
Mais il y a une chose bizarre, il y a une manifestation qui est prévue le 5 juin à 18h30 à Denfert-Rochereau, mais c'est une manifestation exclusivement communiste et communiste stalinoïde. Ça c'est quand même bizarre parce que c'est pas explicable.
Mais est-ce que vous pensez pas que Chirac fait ça surtout pour se positionner sur les présidentielles? Est-ce que vraiment Chirac a le pouvoir de pouvoir demander aux Israéliens et aux Palestiniens de négocier? Je dis qu'il n'a aucun pouvoir et que ça, c'est du cinéma qu'il fait au peuple français.
Oui, mais je crois que personne n'a le pouvoir de les obliger à négocier.
Je crois que, de toute manière, ces visites à Paris n'ont absolument aucune
utilité. Sinon, on regarde la politique politicienne française.
Mais oui, justement, je pense que pour un règlement au Proche-Orient, ça n'a strictement aucun intérêt, à moins que les Américains ou autres ne jugent expédient que ça passe par la France.
Oui, mais tout le monde sait que ça ne sert à rien.
Même en politique intérieure.
Strictement à rien.
Même en politique intérieure, je parlais de la manifestation du 5 juin à Denfert-Rochereau à 18h30, manifestation communiste, je le rappelle. Eh bien, il y a des associations juives communistes ou paracommunistes qui appellent à cette manifestation. Donc, je veux dire, le gain, si on pense qu'il s'agit d'une nouvelle danse du ventre devant la communauté, bon, on ne sait pas du tout ce que ça peut rapporter, parce que il n'est pas dit que globalement la communauté soit favorable en France à Sharon et qu'elle commence pas à trouver qu'il en fait peut-être un petit peu trop. Je ne sais pas ça. Quand on lit la presse communautaire, on a l'impression oui qu'il y a une unanimité, mais quand on parle à des personnes de la communauté, on n'a pas l'impression qu'elles sont absolument enchantées d'avoir Sharon au pouvoir. Hein.
Oui, mais enfin, quand on voit les déclarations du nouveau président du CRIF, oui, Roger Cukierman, où pratiquement il traite Arafat de terroriste, il regrette les accords qu'il y a eu des accords à Oslo, etc. Bon, moi, ce que je trouve absolument sidérant, c'est qu'on puisse accueillir à Paris officiellement, alors que sa visite, quand même, avait été déconseillée l'année dernière, au mois de en octobre, où il y avait quand même beaucoup moins de morts qu'actuellement. Mm. Bon. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les jours, il y a des morts en Israël.
Alors, il y a une autre question.
Non, mais je crois que c'est ce prurit français, gaullien, si l'on veut, de se poser en plateforme, de poser la France en plateforme diplomatique, et nos présidents ou nos présidentiables ne conçoivent leur candidature et leur action que sur avec des retombées internationales.
Alors qu'il est en général démontré que la politique internationale ne joue pas dans les élections présidentielles, dans les élections françaises, et même dans d'autres élections.
C'est l'affaire de la guerre du Golfe qui continue, où on avait trouvé très bien d'avoir une posture internationale. On a vu qu'aux États-Unis, ça ne servait absolument pas Bush d'avoir été le vainqueur de la guerre du Golfe. Ça n'a servi à rien. On a recommencé avec le Kosovo. Rappelez-vous, il y a 2 ans, ces exhibitions absolument grotesques les points du généralissime Chirac devant les drapeaux, devant le drapeau français et le drapeau européen, faisant le point des opérations. Il y avait quelque chose de profondément indécent, de profondément choquant et même, je dirais, quelque chose d'humiliant pour les Français dans les gesticulations de cette marionnette, enfin de cette grenouille tentant de se faire aussi grosse que le bœuf.
La grenouille, c'était le précédent, je le préférais. Ouais. Quand, finalement,
ça l'a fait peut-être.
Le précédent avait fait avec la guerre du Golfe.
Hein. Oui, c'est vrai. Lui, il a un avantage, c'est qu'il est mort.
Il est mort, c'est le seul, mais enfin, je crois que sur tous les autres, ça n'est pas parce qu'il est mort que son action doit être vue avec plus d'indulgence. Oui.
Je
dois faire le travail de Victoria.
Fait la grève.
Victoria est tellement...
C'est le boycott, c'est la grève.
Par la conversation qu'elle en oublie les messages.
Mais c'est pas les messages, il n'y a pas de message pour le moment. Mais théoriquement, on devrait dire oui tous les quarts d'heure. Voilà. Vous écoutez Radio Courtoisie.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Et c'est l'émission de Serge Lebecquetch qui fait ce soir le clan de la presse. Il reçoit les directeurs des journaux.
Le clou de la presse.
Il a la presse amie.
Voilà. Alors, avec Marie-Camille... Camille Gallic de Rivarol, Madirande présent.
C'est pour les malheureux.
Varane de National Hebdo, Ratier de Faits et Documents, et Beketch du Libre Journal. Voilà, c'est comme ça qu'on fait quand on fait...
Mais c'est merveilleux s'il n'y a pas de message, alors ça veut dire que tous les auditeurs sont d'accord.
Il y a beaucoup de messages, mais qui sont complètement hors sujet, je veux dire.
Mais surtout, ils disent, vous avez raison,
les bons messages.
Merci. Et il y a même quelqu'un qui propose que vous veniez toutes les semaines.
Ouais. On en parlera, on verra ça. Non, décidément pas de message.
Il y a quand même qui est en train de se faire, c'est les dispositions qui risquent d'être prises contre dans le futur sur le président de la République, quel qu'il soit. Dans l'affaire et qui a éclaté avec l'affaire des HLM de Paris. Les positions seraient que, en ce qui concerne la période pendant laquelle il est président de la République, il ne peut pas être atteint, mais on peut l'atteindre sur son passé. Je crois que ça va être présenté à l'Assemblée nationale bientôt, non ?
Mais oui, ça doit être présenté, ça sera d'ailleurs probablement pas adopté aussi facilement qu'on le croit, mais je crois surtout que c'est superflu.
Surtout,
ça ne sera
pas adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Dans les termes,
donc,
exactement.
C'est tout à fait,
mais en plus, ça me paraît tout à fait superflu, puisque maintenant, il est très clair que Tout individu qui a une responsabilité politique, quelle qu'elle soit au cours des 50 années écoulées, va de toute façon finir devant les tribunaux et probablement en tôle. On l'a vu avec Papon. Et là, vous avez vu que M. Osares a été convoqué parce qu'il y a des Français qui ont disparu au Chili. Alors il se dit, tiens, on va voir si c'est pas par hasard le général Osares qui, en tirant avec un pistolet à longue portée depuis l'Algérie, est arrivé à buter à 30 ans de retard ou à 10 ans de retard un Français au Chili. On est dans une société de fous furieux, de démence totale. Donc, on essaye maintenant de faire inculper tous les gens qui ont eu des responsabilités en Algérie. On va bientôt inculper les survivants de l'Indochine. J'ai entendu qu'en Allemagne, on venait de condamner à la prison à vie un gardien de camp de 90 ans qui, à 56 ans, avait tué un détenu au cours d'une tentative d'évasion.
Et était condamné sur un seul témoignage.
Sur un témoignage unique. Donc, là, je crois que les gens qui font de la politique en ce moment...
Il y a l'Australie qui a décidé d'extrader le letton Conrad Leitens, alors qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre la Lituanie et l'Australie.
Oui, mais à travers ça, il est en train de se passer quelque chose. C'est que, quel que soit le temps passé, il y a quelques petits leurres qui peuvent s'ajouter ici ou là, mais grosso modo, il s'agit principalement d'atteindre tous ceux qui, à un titre ou à un autre, à un moment ou à un autre, se sont opposés au terrorisme subversif et spécialement communiste.
Oui.
Et ce sont les communistes et ce sont les terroristes qui, eux, ne sont pas atteints par ces mesures. Alors donc, c'est pas la folie furieuse dont vous parliez, Serge, avec raison, est une folie furieuse qui est suscitée, manipulée et qui se trompe pas d'adresse. Les communistes sont peut-être pas les seuls d'ailleurs, mais enfin c'est les plus visibles de ceux qui sont les plus immédiatement visibles de ceux qui sont en tout cas non seulement épargnés, mais qui font passer devant les tribunaux tous ceux qui, sous quelque manière que ce soit, se sont opposés à leurs entreprises, au terrorisme, au Chili, en Algérie, n'importe où.
Non, mais ils n'oublient jamais.
Et quand il s'agit d'un bout d'arène, vous avez vu comment ça s'arrête, hein? Oh, pas question. La folie furieuse, elle est calmée
est-ce
aussitôt.
Est-ce que vous n'avez pas été frappé, chers amis, par la mort de Korda? Que personne...
Le photographe.
Personne ne connaissait Korda. Mmh. Mais il a immortalisé
Chevènement, hein.
Non.
Du Che Guevara.
Oui. C'est lui dont on a volé le portrait. Voilà.
Et, enfin, les articles, les pages entières, dans les informations à la télévision, ça a été deux jours, même si l'actualité était assez calme, ça a été repris dans plusieurs journaux successifs, ce qui permettait de revivifier la légende du Che. Mmh.
Et qui commençait à être un peu écorné, d'ailleurs.
Mais en fait, ça, c'est quand même très révélateur de la machine... médiatique.
La culture audiovisuelle et journalistique,
c'est
Gramsci, si on peut parler de culture, étant entièrement marxisée.
Mais il n'y a pas que la culture, hein.
Non, mais je dis,
exemple type, là, dans le dernier bulletin du cercle franco-hispanique de Grimaldi, bon, il relève quelque chose que j'avais pas vu. La mairie de Paris sous Tibéri l'année dernière, à la fin de l'année dernière, a fait voter une rue Louis Guillou. Et il cite une partie du texte qui a été présenté au conseil municipal en disant que c'était un militant communiste, un homme remarquable parce que, je crois, enfin bon, de tête, il était président ou secrétaire de l'association de soutien aux brigades internationales.
Cela dit, le TNP avait mis pas mal de pièces de Louis Guillou,
voté par une majorité de droite.
C'est dans le droit fil de Chirac qui remet la décoration aux anciens camarades de combat de son père naturel, si j'en crois ce qu'écrit M. Fersan dans son livre, puisque selon lui, le président de la République sera le fils d'un combattant des brigades internationales. Vous avez lu ça, non?
Oui, mais... oui, mais enfin, je suis pas... les ascendants de Chirac ne me regardent pas.
Ah bon?
Enfin,
je trouve ça rigolo.
Que la vie actuelle de Chirac...
Mais ça, c'est clair, quand même.
Chirac ou un autre, dans l'état actuel, aurait donné le titre d'ancien combattant aux anciens combattants des brigades rouges, des brigades internationales. Mmh. Un autre, à sa place, l'aurait fait de la même façon. Parce que c'est actuellement, conforme à ce que vous signalez là, c'est qu'on s'aperçoit, tiens, mais tel inconnu, tel, hein, pourquoi est-ce qu'on parle de lui, pourquoi il est décoré, s'il est mort, pourquoi le fait, c'est là, quand je dis la culture, je veux, oui. La culture, entre guillemets, mais c'est la mémoire. Mm-hmm. C'est le
devoir de mémoire.
C'est le vocabulaire, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire qui paraît le plus norme, le plus courant et apparemment le plus innocent est complètement perverti.
Cela dit, pour Chirac, pour le père de Chirac, ADG avait fait sa chronique d'Henri Varol il y a 5 ans ou 5 ans et demi.
Et quelle était sa version?
Bah, il présentait, ah, justement, oui. C'était d'ailleurs d'après le journal, le quotidien espagnol ABC, donc c'est oui. Parfaitement public, oui. Et on avait fait, je crois que Françoise avait fait d'ailleurs un dessin sur le...
C'est amusant, en tout cas.
C'est amusant.
Surtout si on recoupe avec les souvenirs de la dame qui était la meilleure amie de Madame Chirac-Mère. Et dont le fils avait été reçu à Radio Courtoisie dans l'émission de Reichmann, où cette dame écrivait dans ses souvenirs que toutes les raisons qu'elle avait de ne pas croire que Chirac était le fils de cette dame, puisque elle avait subi une opération qui normalement l'empêchait d'avoir des enfants. Et curieusement, le livre qui était paru aux éditions numéro 1, ce qui n'était pas une petite maison d'édition, a été retiré des librairies en une semaine. Il a disparu totalement et maintenant il est totalement introuvable. Je connais quelqu'un qui en a un exemplaire.
Je l'ai.
Vous allez être cambriolé, Ratier.
Il faudrait, tiens, ça serait un objet d'une petite enquête. Est-ce qu'on peut se procurer à la Bibliothèque nationale?
Ah, voilà, un bon sujet.
On doit pouvoir le consulter à la Bibliothèque nationale, mais puisqu'on parle de la Bibliothèque nationale, c'est aussi passé dans la plus parfaite indifférence. Je parle de la nouvelle Bibliothèque nationale de France, là, ce truc qui représente 4 livres ouverts qu'on voit sur les côtés de la Seine. Ils ont adopté un règlement. Qui est distribué à tous les lecteurs, dans lequel il leur est indiqué qu'on peut certes procéder à toutes les recherches qu'on souhaite, mais que si ces recherches ont pour but d'enfreindre les lois sur la xénophobie, le racisme, la loi Guesso, etc., la Bibliothèque nationale se réserve le droit d'interdire l'accès aux ouvrages, de supprimer la carte de lecteur des y compris des chercheurs, voire de les poursuivre.
Et comment elle connaît le but? Comment elle connaît le but que poursuit quelqu'un?
Il y en a comme ça. J'ai eu le règlement cette semaine. Il y en a une page.
Si vous êtes journaliste à Tribune Juive, vous avez le droit de demander un bouquin de Forisson.
Voilà.
Si vous êtes journaliste au Libre Journal, vous n'avez pas le droit.
C'est pas le but, c'est la personnalité de celui qui poursuit le but.
Et au milieu, ils ont évidemment rajouté le truc qui est maintenant classique, la pédophilie, pour tenter de criminaliser toute recherche historique non conforme.
Je rappelle quand même, parce que
la criminalité de la pédophilie va sauter un de ces jours. Ils ne pourront pas tenir.
Le mot est mal choisi. Je voulais simplement dire que, à propos de la filiation de Chirac, pour en finir avec ça, c'est pas la peine, pour avoir le fin mot de l'histoire, de chercher le livre disparu de cette dame dont j'ai oublié le nom. Puisque...
Madame Bassan, je crois.
Madame
Bassan, mais je suis pas sûr.
Bassan. C'est fou, c'est fort. Donc c'est dans le livre de... Enfin, dans le Mon Journal de l'an 2000, François Brignot donne tous les détails. Enfin, tous les détails. N'exagérons pas, quand même. Il évoque assez approfondie.
Les détails nécessaires.
Cet aspect de la réalité politique d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est mieux d'acheter Mon Journal de l'an 2000 de François Brignot en vente aux éditions, aux publications FB.
Auto-édition
FB, 21 rue Mademoiselle.
Paris 15e,
pour la modique somme de.
150 francs.
Mais comment consulter le Libre Journal qui fait une forte concurrence pour la diffusion
Ah non, oui, si, bien
oui,
sûr.
Oui, oui, en dernière page.
Alors, est-ce que c'est le même prix? Quel est celui qui le vend le moins cher?
Je ne sais pas.
Quel est celui
J'espère que ce n'est pas moi. Bon, enfin, c'est sordide de parler d'argent comme ça.
Eh bien, je ne sais pas, Victoria vient de recevoir...
Attendez, voilà. Pouvez-vous donner des éclaircissements sur le fameux volet fiscal qui a l'air de fâcher Jospin contre M. Blair?
Alors, il n'y a que Emmanuel Raté qui peut parler de ça.
Ça n'excite pas les populations, ça.
Emmanuel, dites-nous ça, vous qui savez.
Je ne suis absolument pas au courant, là. Je suis désolé.
Enfin, quelque chose.
Ne soyez pas si sévère à l'encontre de M. Charonne. La France actuelle aurait bien besoin d'un Premier ministre.
Ah,
de
mais attendez.
Ah non, mais c'est ce qu'on disait aussi. C'est ce qu'on disait aussi avec les Serbes. Et un jour, on leur a dit, vous prenez la porte. Et on a mis des Albanais à la place.
Non, mais attendez,
et on est devenu étranger dans son propre pays.
Alors, pour être parfaitement clair, si on pouvait avoir en France un chef d'État qui se comporte en France comme M. Sharon se comporte en Israël, je serais le plus heureux des hommes. Ça, alors là, absolument, je le
avec
dis.
Avec quelques adaptations, quand même. Hein, avec quelques adaptations.
Non, mais c'est, enfin, c'est mon opinion et je la partage.
Oui.
Mais absolument, ça, je trouve.
Enfin, je pense pas que vous souhaiteriez qu'il fasse ça aux populations de souche qui sont installées là depuis très longtemps.
Non, mais voilà. Totalement
attendez, vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout de la démonstration.
Mais...
Je voulais dire que simplement, la différence, c'est que en France, les territoires occupés, c'est exactement le contraire. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais il est évident que, disons, le caractère un peu dynamique de la politique de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre israélienne a quelque chose qui me plaît bien. Vous voyez ? Je suis sûr qu'on aurait moins de problèmes en France si un responsable politique quelconque se disait, bon ben voilà, alors, puisque ça marche en Israël, il n'y a pas de raison.
Alors vous proposez, vous rêvez d'une solution du désespoir.
Voilà, si vous voulez. Enfin, moi, je. Voilà. Mais bon.
Pourquoi de désespoir?
Le silence règne sur l'une et l'autre colonne.
Parce que quand on utilise les chars, les chars et les avions pour envoyer des missiles sur des voitures ou dans des immeubles.
Perfidement, mon voisin de gauche, qui est le président Varane, veut visiblement me faire tomber sous le coup des lois que nous connaissons bien.
Non, mais la question, ce ne serait pas d'avoir un premier ministre qui soit comme Sharon. Ce serait de savoir comment. Ceux qui trouvent très bien l'attitude de Sharon dans l'État hébreu commenteraient l'attitude d'un Premier ministre français qui se conduirait en France comme Sharon.
Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je serais pour lui, moi.
Voilà.
Je me conduirais comme les nationalistes israéliens en Israël. Voilà. Chaque nationaliste doit se comporter de la même manière dans son propre pays.
Non, mais effectivement, dans ce que dit Camille, il est remarquable que le nationalisme est condamné partout, par les autorités religieuses, morales, les francs-maçonneries, tout ce qu'on voudra, partout, sauf un seul nationalisme qui est non seulement autorisé, mais qui est très respecté.
En parlant de...
Alors, naturellement, c'est pas exactement le même nationalisme, parce que, comme disait le regretté Jules Monod, autant de nations, autant de nationalisme.
Et puis je voudrais ajouter une chose quand même, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas globaliser. Par exemple, j'ai remarqué qu'on a tiré des conclusions assez, certains, hein, pas nous, mais certains ont tiré des conclusions un peu généralisatrices et un peu abusives de la fameuse affaire du Sentier, vous vous souvenez ? Où des chefs d'entreprise indélicats ont été pris la main dans le...
Quelques rabbins
et quelques hommes d'église. Et ils sont partis se réfugier en Israël. On a dit, c'est incroyable, ces gens-là se soustraient à la justice, etc. etc. Je veux dire, il ne faut pas généraliser parce que ce n'est pas toujours le cas. Bien au contraire. Là, par exemple, on vient d'avoir dans l'actualité un exemple qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup réconforté, finalement, de gens qui ont décidé que la loi française serait appliquée et dans ses caractères les plus durs. Alors, ils ont raté leur coup avec l'histoire du Sentier. Enfin, ils ont raté leur coup. Ils n'ont pas pu imposer le respect de la loi française dans le scandale du Sentier. Mais en revanche, je remarque que dans les suites de l'affaire Papon, là, ils vont arriver, ces groupements, ces associations vont arriver à imposer le respect de la loi dans ses extrémités les plus dures, les plus radicales, puisque vous savez qu'on demande l'annulation de la succession Papon, puisque Papon avait organisé sa succession, ce qui se fait dans beaucoup de familles un peu dotées, et il avait donc distribué leur part à ses les enfants. Et les associations communautaires exigent que on prenne aux enfants, en vertu du principe talmudique selon lequel, quand les parents mangent des raisins verts, les enfants en ont les dents agacées, ils demandent qu'on prenne aux enfants leur héritage.
Mais là, ils n'ont rien fait contre la loi française. Papa n'a rien fait contre, me semble-t-il, en disposant de son
bien. À la loi écrite, si vous voulez, mais il y a une espèce de loi morale supérieure qui fait que dans ce cas-là, c'était mal, évidemment. Oui. Et j'aime bien cette idée que, d'une part, bon, quand on n'arrive pas à appliquer la loi d'une façon totalement satisfaisante dans un cas, dans un autre cas, là, on s'applique vraiment à faire beaucoup mieux. Donc finalement, c'est une espèce de, c'est une forme de repentance, quoi. Hein? Voilà, je voulais simplement souligner cet aspect de l'actualité qui me paraît. Vous n'avez pas l'air de suivre mon raisonnement.
Si, parfaitement. Comme c'est très bien résumé, il n'y a rien à rajouter.
Il n'y a rien à ajouter.
Continuons. 30 députés européens ont déposé une proposition demandant l'adhésion de l'État d'Israël à l'Union européenne.
Mais oui. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait que 30 députés.
30. Oui,
il en manque beaucoup. Je trouve que c'est suspect, cette histoire. C'est suspect.
Israël, moi, je ne connais pas bien la géographie. Israël, c'est en Europe, alors?
À partir du moment où ils ont adhéré à l'Union européenne, ça sera en Europe.
La Turquie.
Ou alors l'Europe.
Et la Turquie, c'est où?
Et voilà.
Il y en a un petit bout.
Et le Maroc.
Alors, pouvez-vous parler du discours de Jospin lundi après-midi sur l'Europe?
Ben on en a dit
ah
deux.
Le président Varane l'a estourbé d'un seul coup en disant que... Mais oui, c'est vrai.
Il c'est très beau, je crois, quand on...
On peut préciser que quand même, mais je crois que c'était l'essentiel, c'est que parler comme il l'a fait de...
Il existe un art de vivre à l'européenne. Oui. Chacun de nos pays a ses traditions et ses règles, mais celles-ci composent un univers commun. C'est oui. Original, tout
et
ça.
Et c'est riche, surtout.
C'est incroyable.
C'est riche.
Mais enfin,
j'ai jamais pensé.
Il a dit aussi.
Il ne faut pas être méchant avec lui parce que c'est certain que ce n'est pas lui qui l'a écrit.
L'Europe est bien plus qu'un marché. Elle est porteuse d'un modèle de société.
Oui, mais un modèle de société, je me demande ce que c'est. Parce
qu'il en reste.
Il a dit une chose fort intéressante qui n'a pas retenu l'attention. Il a dit les traités, parlant des traités européens, ils sont devenus indéchiffrables.
Il a peut-être voulu dire indéchirable.
Non, ils sont devenus indéchiffrables. C'est tout à fait intéressant.
Oui.
Indéchiffrable par l'empilement des politiques communes. Ce qui me frappe le plus dans cette affaire-là, c'est peut-être à ce niveau-là, c'est que nos hommes politiques, Chospin, les autres, ils parlent de l'Europe comme s'ils n'avaient pas eu connaissance, comme s'ils n'avaient pas lu, ce qui est d'ailleurs peut-être vraisemblable, ni le traité de Maastricht, ni le traité d'Amsterdam. Ils parlent de voir s'ils font pas ceci, cela, alors que ça, ils se sont déjà engagés très loin. Ils ont donné leur signature à l'Europe fédérée. À l'Europe fédérale, on dit, oh là là, faut voir, attention. Et là, Jospin, il a visiblement donné, il a donné la ligne politique générale à côté des banalités que Camille a raison de souligner. Politiquement, je crois qu'il a pris une ligne où, il y a un journal anglais qui a très bien dit ça. Il a dit qu'il était à la fois européen et patriote. Alors voilà, donc pour
c'est un discours.
C'est un discours oui, mais c'est un discours véritablement pour électoral.
Mais
c'est même pas. C'est parce qu'il lui fallait dire quelque chose.
Oui, mais au fond, ça correspond. On voit bien à travers l'affaire Corse que ça correspond très très bien à la pensée de ces gens-là, à la pensée profonde de ces gens-là. C'est-à-dire que ils maintiennent. L'illusion de l'intégrité du territoire national, alors que depuis l'Algérie, on sait très bien que c'est une pure et simple illusion, c'est un mensonge, une imposture, un attrape-couillon. Bon, et donc là, en Corse, là, ce qui va être décidé pour la Corse, c'est tout simplement deux États, enfin c'est une fédération d'États. L'État corse et l'État français vont être fédérés et associés dans une sorte de fédération comme ça. C'est ça, à terme, c'est ce qui va se passer. Et la même attitude vaut vis-à-vis de la France dans l'Europe. La France sera vaguement alliée à la Corse et vaguement alliée à l'Allemagne, mais on voit très bien que tout ça consiste à jouer une espèce de fausse. Comment dit-on? Quel est le mot qu'on emploie? Chacun. selon ses moyens et selon ses pouvoirs, à son niveau, enfin le fameux mot qu'on a
utilisé, principe de subsidiarité,
voilà, une espèce de faux principe de subsidiarité qu'on va agiter en disant, voyez, ça vaut pour la Corse, en Corse ils se débrouillent sur les affaires corses, et puis en France on se débrouillera sur les affaires françaises, et puis en Europe on gérera les grandes affaires internationales et les grands marchés.
À ceci près, néanmoins,
il s'agit de démembrer les nations.
Avec dans ce discours dont nous sommes de parler, il a parlé de, il a envisagé la régionalisation des élections européennes.
Oui.
Et on voit ce que signifie.
Ça, c'est la clé. C'est le coup de marteau sur la vitre.
C'est ce que signifie le. On voit ce que cela signifie.
Bien sûr. C'est un vieux projet, puisque c'est un projet qui est pratiquement jumeau de l'idée européenne.
Quand on voit ce projet régional, d'ailleurs, qu'ils évoquent, ne sera certainement pas ni le système des régions actuelles,
non, parce que
ni même ce qu'on peut appeler les pays et les terroirs, ce qui est plus profond, les patries charnelles.
Les grandes
et ça sera les grandes régions. C'était ce fameux partage qui avait été fait de la France. C'était une carte européenne où la France était découpée en 5 morceaux. Avec, il y avait notamment l'arc atlantique. Mmh. Et puis vous aviez un élément qui allait de la basse Normandie jusqu'au nord Pas-de-Calais. Et c'était une espèce d'arc de cercle. Là, vous aviez l'Île-de-France, et puis vous aviez une espèce de province pré-méditerranéenne, enfin méditerranéenne, voire pro-maghrébine. Les deux côtés de la Méditerranée, où on se retrouvait avec une espèce de partie Provence-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon.
Ça existe déjà dans les textes européens, puisque c'est Blanza qui avait trouvé ça il y a déjà au moins 3 ou 4 ans. Il avait trouvé des emballages de produits alimentaires qui était indiqué en provenance du centre-est. Qu'est-ce que ça veut dire, le centre? Produit européen en provenance du centre-est. Mmh. Qu'est-ce que c'est, le centre-est?
Mais vous savez, les présidents de région, compte tenu de ce qu'a dit Vaillant et des problèmes de la Corse, ne se sentent plus maintenant et réclament une régionalisation, une décentralisation et des pouvoirs. J'étais au conseil régional hier à Nantes, j'ai entendu M. Fillon réclamer des pouvoirs. Et allant dans son sens, je lui ai dit, mais M. Fillon, est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce que représentent vos 5 petits départements des Pays de la Loire face aux Landes ou face aux grandes régions d'Espagne? On va se trouver dans une situation, si cette Europe des régions se fait, avec des régions. Giscard avait déjà amorcé le problème de faire 20 grandes régions. Mais les régions, les 21 régions ou 22 régions que nous avons à l'heure actuelle, ne pourront pas être en concurrence vis-à-vis des grandes régions qui sont déjà en place en Europe, qui sont déjà des identités. Et puis, par elle-même.
Et puis de quel pouvoir il parle quand il réclame des pouvoirs? Ils n'ont même plus le pouvoir de régler la chasse, les fromages,
l'heure.
On estime que 50-60%, dit-on, et peut-être davantage, des réglementations en française viennent du droit européen qu'on a fait passer en droit français. Tout ça, c'est passé sans qu'on ait rien à dire.
Oui, mais ils ont de grands pouvoirs sur la rénovation des lycées et le... Les commissions...
Oui, ils ont le pouvoir, c'est les domestiques qui ont le pouvoir de se partager les restes.
Chef de gare des régions, puisque la SNCF, maintenant, dans les régions, est gérée par le conseil régional.
Alors, les
nationalistes corses, par la lutte armée, obtiennent tout ce qu'ils veulent. Les nationalistes français, en respectant la loi, sont interdits de tout. Où est l'erreur?
C'est toujours le traitement,
sait, est, média,
le traitement médiatique et le sens de l'histoire.
Où sont nos cagoules?
Les nationalistes corses sont bénéficient d'un consensus général, plus ou moins, tandis que le nationalisme français, ou le nationalisme, on n'a pas parlé des incidents qui ont été très graves, qui se sont produits à Oldham. Moi, j'ai été très surprise que tout le monde découvre Oldham, parce que Rivarol avait fait un article là-dessus le 23 mars dernier, sur les incidents de plus en plus, les agressions de plus en plus graves qui arrivaient à Oldham. Et On nous a totalement trompés ces derniers jours en parlant de ces nuits d'émeute, en nous disant qu'il y avait eu 570 attentats racistes, assauts racistes à Oldham l'année dernière. Seulement, ce qu'on nous a pas dit, c'est que sur ces 500, plus de 500 attentats racistes, près de 70% étaient dirigés contre des blancs.
Oui, c'est ça. C'est du racisme, mais évidemment, comme le langage...
Seulement, ça permettait d'incriminer le National Front et le British First, l'ancienne... le British... parti... le... Voilà, c'est donc tout à fait caractéristique. C'est une violence pakistanaise qui dure depuis donc des années.
Oui, il suffit de lire la presse nationaliste anglaise.
Mais même
ils en parlent depuis des mois.
Nous en avions parlé d'après le Télégraphe et le Guardian, qui ne sont pas, l'un est travailliste, l'autre est conservateur.
Oui, c'est pas l'extrême droite.
Ils ont des journalistes sur place qui, simplement, on avait cité le commissaire, c'est tout. C'est le commissaire qui donnait les chiffres.
Victoria.
Enfin, pour en revenir, excusez-moi, à la Corse, si je peux avoir un petit mot. Bon, tous les gens qui... Enfin, bon, à mon avis, toute personne qui s'est rendue en Corse ou qui est d'origine corse voit parfaitement quand même qu'il y a un phénomène insulaire, identitaire fort, ce qui explique un certain nombre de choses qui se produisent. Mais quand on nous... Quand cet auditeur... Bon, enfin, petit mot d'humour, on peut parfaitement lui retourner en lui expliquant que en Corse, il y a moins de 250 000 habitants. Quand ils ont fait la fameuse réunion dans le maquis à l'époque Juppé Debré, il y avait 800 personnes en cagoule, puissamment armées, avec des mitrailleuses, des lance-roquettes, etc. Quand vous le rapportez à l'ensemble de la population française, ça suppose que vous avez une armée clandestine de 150 000 personnes. Entièrement équipé et opérationnel sur le territoire. Bon, et c'est pas compliqué, avec 150 000 personnes, vous contrôlez le territoire français. Et ben là-bas, les nationalistes se sont donné les moyens de contrôler le territoire. Là. Comme ça faisait 20 ans qu'il y avait des attentats, ben, le gouvernement règle ça comme on le voit maintenant.
Alors, oui, seulement, alors ça suppose une régionalisation, une provincialisation, parce que cette résistance n'est pas possible à l'échelon continentale de la France. Elle ne peut reposer que sur des liens de terroir, des liens beaucoup plus étroits.
Oui, c'est l'exemple de la Vendée.
Exactement, c'est la Vendée. On ne peut pas faire une Vendée à l'échelle hexagonale.
Il faut changer la Constitution. Eh ben oui, sans ça, c'est pas possible.
Vive le roi. Dispersion.
N'évoquerez-vous pas les élections en Italie? Ah ben, il y a un grand silence dans l'Italie.
On va dire du bien de M. Berlusconi,
qui
refuse d'ailleurs de rencontrer M. Haider.
Le problème est
ça. Berlusconi.
Berlusconi, c'est la question qu'il faut savoir. Est-ce que c'est son pouvoir médiatique ou son pouvoir d'argent qui l'a fait gagner?
Moi, je voudrais simplement demander, est-ce que vous avez vu la fiche de Valeurs Actuelles?
Non.
Bon, qui montre donc la une de Valeurs Actuelles, c'est un portrait du nouveau chef de l'État libanais.
Laoud,
Ouais. Or, je constate tout simplement que Laoud, c'est pratiquement le sosie de Berlusconi. C'est, où il s'en fout pas de beaucoup. Il ressemble étonnamment à une espèce de Clinton un peu bronzé. Ils ont tous, ce que je veux dire, c'est que bon, ils se ressemblent pas. C'est pas, évidemment, ils sont pas les sosies les uns des autres, mais ils ont tous le même look. On voit que ce sont des gens...
Il tire
un
peu sur Jacques Chirac, d'ailleurs, hein, maintenant,
Voilà, on voit que ce sont des gens qui ont été fabriqués dans un moule médiatique, un moule, qui ont été fabriqués dans une boîte. On a dit, voilà, les peuples veulent des représentants, des chefs d'État, des premiers ministres, qui aient un look moderne, branché, bronzé, beau mec, belles dents, bien coiffé, etc. Assez avec décontracté, il porte une chemise Lacoste, etc. C'est ça.
Robert Rue sera jamais président.
Voilà, Robert Rue ne sera jamais président de la République, c'est clair. Mais Jospin va avoir du mal.
Ils sont fabriqués par les publicitaires.
Voilà, donc il y a une fabrique.
L'instrument de ça, je ne dis pas l'inspiration première, mais l'instrument de ça, c'est véritablement
l'espèce de domination intermédiaire, mais qui elle est sensible, qui est exercée par les professionnels de la publicité, de la communication.
Ce que je veux dire à travers ça, c'est que Berlusconi fera exactement en Italie ce que Chirac a fait en France, que Blair a fait en Angleterre, ce que je sais plus comment.
Non, mais ce qui est vrai, bon,
je crois que ce n'est pas parce que les médias qui font l'opinion et qui ne nous aiment pas ont dit « Monsieur Berlusconi est affreux parce qu'il est de droite », qu'il faut attendre des miracles de Monsieur Berlusconi.
Exactement.
Je crois qu'il faut attendre. Non. D'abord, pour le moment, il n'a pas de programme. Non. Donc, il faut l'attendre de le voir à l'œuvre. Il n'y a pas plus de raison de se réjouir de l'élection de Monsieur Bush. On attend de les voir.
Il y a quand même une chose qui est très rigolote dans l'histoire, si j'ose dire, dans l'histoire Berlusconi, c'est son fameux contrat qu'il a signé avec le peuple italien, qui a provoqué une très grande émotion. Mais on a dit, oh là là, mais on n'avait jamais vu ça et tout. Il est pas arrivé, il a dit, voilà, il y a 5 points contre en 5 points, je m'engage à 6, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Je me permets d'attirer l'attention de l'aimable assistance sur le fait que c'est très exactement ce qu'a fait Adolf Hitler quand il s'est présenté aux élections.
Oui, c'était hier soir à la télévision.
Ah bon?
Oui. Mais c'est aussi ce qu'avait fait les Chevalezas, ou d'autres gens. Oui. Bon. Mais, si quelqu'un a un programme qui signe avec un gros stylo, il faut le comparer à Hitler.
Je veux dire, le côté, il y a 4 points. Hitler, c'était 4 points, on mettra les gens au travail, etc. etc. Donc, on voit des techniques. Évidemment, je ne m'amuse pas à comparer Berlusconi et Hitler. Je dis simplement qu'on voit la permanence de techniques de propagande qui sont, on pourrait penser qu'elles sont usées, ça fait 70 ans, c'est exactement la même chose, simplement c'est modernisé. Adolphe, il était en uniforme, etc. L'autre, il porte un autre genre d'uniforme. Les hommes politiques, maintenant, portent d'autres genres d'uniformes. L'uniforme du tennisman.
Il y a quand même une chose, c'est le nombre de votants. C'est quand même assez spectaculaire qu'il y a eu 80% de votants. Alors, est-ce que la lutte était ardue? Y a quand même là un phénomène, puisque en France, à l'heure actuelle, au contraire, c'est plutôt le en sens inverse, il y a moins en moins de votants. Là, il y a eu quand même un phénomène en Italie qui a incité les gens, ou de droite ou de gauche, à participer au vote.
En fait, ce qu'il y a, c'est que le gouvernement n'est pas encore formé. Il doit arriver normalement au pouvoir le 15 juin, je crois.
Oui.
Donc, pour le moment, c'est un peu difficile d'en parler. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu quand même... Je pense pas que ça soit utile de l'attaquer systématiquement avant de qu'il ait montré. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu... ça, c'est certain, c'est paru en petit dans la presse financière. Il y a eu quand même deux des principaux représentants de la commission trilatérale qui sont rendus à Rome pour le rencontrer, pour rencontrer Berlusconi. Parmi les participants, il y avait Agnelli, qui était là, qui est membre de la commission trilatérale. Et ils sont tombés d'accord, j'ai pas son nom en tête, mais sur le prochain ministre des Affaires étrangères italien. Le ministre des Affaires étrangères italien...
Est nommé par la trilatérale.
Il est membre de la commission trilatérale. Mmh. Il est ancien vice-président... Voilà. De la Banque mondiale ou du FMI, mais je vous dis ça de tête, et toute la presse italienne dit que c'est lui qui va être le prochain ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que il y a l'arrivée de l'euro, donc c'est un poste clé, il va certainement y en avoir d'autres. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de diktats financiers et économiques importants, au-delà de la politique, qui pèsent déjà sur Silvio Berlusconi.
Okay. La grosse Europa de Schröder et Chirac et compagnie, c'est la revanche éclatante d'Adolf Hitler. Il doit bien rigoler en enfer. Alors, les nationalistes corses ne sont pas nationalistes. La Corse est-elle une nation? Deuxièmement, les nationalistes corses obtiennent tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont tout sauf corses. Question. Que pensez-vous de la Macédoine? N'est-on pas en train de nous préparer un nouveau Kosovo?
Ça, on va en parler tout à l'heure, probablement, avec le commandant Bunel qui
c'est très très bon en été quand c'est bien frais, la Macédoine.
Pouvez-vous
je crains que ce soit plutôt chaud.
Pouvez-vous évoquer ce qui se passe en Kabylie?
On en a déjà parlé beaucoup.
Que pensent vos invités de cette prise de position de la prise de position de Monsieur Jospin concernant la création d'un permis de conduire de citoyenneté?
Oh, c'est un gag, ça. On en a parlé également la dernière fois. C'est un pur et simple gag. Quand on aura perdu ses points de citoyenneté, qu'est-ce qui se passera? On sera enfermé.
On suivra des séminaires de recitoyennement. Voilà.
On paiera pour suivre des cours.
Mais d'une certaine manière, c'est déjà un peu inversé. C'est ce qui est déjà appliqué. Puisque maintenant, par exemple, quand vous avez plutôt que de faire des travaux d'intérêt généraux ou des petites peines, on vous retire actuellement le permis de conduire pour 30 jours ou pour 2 mois, alors que votre infraction n'a strictement rien à voir avec une infraction au code de la route.
Jamais on aurait été plus concitoyen. Voilà.
À propos de l'affaire Elf, alors, 6 mois pour M. Dumas, 18 mois pour Mme de Viejoncourt et 4 ans pour M. Sirven.
Et 14 ans pour Ossarès.
Je vous remercie. La prochaine réunion du clan de la presse se déroulera à une date que nous allons fixer de conserve très prochainement, si vous le voulez. Alors, avant de nous séparer selon la tradition, je voudrais que vous annonciez vos titres et les propositions faramineuses que vous faites aux auditeurs de Radio Courtoisie qui voudraient découvrir vos journaux respectifs. Je sais qu'à chaque fois, on monte dans la surenchère des cadeaux. Je pense qu'un jour, Varane va offrir une Mercedes à tout abonné. Je parle de la voiture, je parle pas d'une... D'une belle espagnole. Ah. C'est plutôt d'une belle allemande.
Pourquoi pas une belle française?
Voilà.
Bon, ben moi, je vais d'abord dire que cette semaine, s'ils achètent le journal, ils auront un beau cadeau, c'est 16 pages, puisque c'est un spécial 16 pages. Mais si vos auditeurs veulent répugner...
Qui sont aussi les vôtres, cher Camille,
ce qui nous sont, en effet, puisque je vous remercie de nous accueillir. Pour avoir, je les invite vivement à acheter un numéro en kiosque, mais s'ils veulent connaître notre journal auparavant, ils peuvent nous demander un spécimen de Rivarol, d'ailleurs, ou de notre revue mensuelle écrite Paris, en écrivant à Rivarol, 1 rue d'Hauteville, 7510 Paris. Ils peuvent téléphoner au 01 53 34 97 97 et s'ils ont internet, se brancher sur rivarol.com, c'est tout. Et les personnes qui souscriront un abonnement à la suite de cette émission et seulement à la suite de cette émission,
on les interrogera. Ils seront interrogés.
D'un prix spécial de 500 francs au lieu de 650. Voilà. Je ne peux pas faire mieux, c'est mon dernier prix.
tant pis, on va descendre encore une prochaine fois.
Présent, je vous invite aussi, si vous ne connaissez pas, à en faire l'achat dans un kiosque ou à défaut de kiosque à la Maison de la Presse de votre localité. Et je vous propose, si vous voulez mieux faire connaissance, de demander l'envoi pendant 4 semaines. Cet envoi pendant 4 semaines sera gratuit et sans engagement de votre part. C'est mon dernier prix. Maintenant, si vous voulez savoir...
C'est votre dernier mot.
Si vous voulez savoir ce que vous pourriez faire, mais vous pouvez, si vous voulez, mais on ne le demandera pas, envoyer une participation aux frais de 100 francs pour vous, si c'est pour vous, ou à l'intention d'une personne que vous voulez intéresser à présent. 4 semaines avec votre adresse et vous ne nous devrez rien que, si vous le voulez bien, une lecture attentive. Une lecture attentive.
Vous avez changé le format de
National Hebdo? Non, National Hebdo n'a pas changé le format.
C'est moi qui ai changé
On l'a changé il y a quelque temps pour une meilleure présentation dans les kiosques. Si vous ouvrez, il n'a pas changé.
C'est une astuce.
C'est une astuce pour être bien présenté dans les kiosques au lieu d'être... Alors, naturellement, moi, je ne changerai pas mon système. J'estime que la promotion est une chose importante. Et National Hebdo engage la bataille du franc. Vous le savez tous, auditeurs, qu'en 2002, vous allez être obligés d'avoir peut-être connu par le passé l'assigna, l'ancien 100 francs, le nouveau 100
francs. L'assigna, c'est quand même pas des perdants de l'année. Hein.
Ah non, 17.
Je sais bien que 17... Radio Courtoisie est une radio dont l'auditorat
on peut l'avoir.
Un certain passé. Mais...
J'ai bien dit que vous pouvez l'avoir par devers vous, dans des archives. Et puis, il y a eu les 100 francs nouveaux, et maintenant, vous allez avoir les avez 100 euros qui vont
nouveau.
Valoir 500 francs, plus de 500 francs. Alors, National Hebdo engage la bataille du franc et propose des conditions spéciales à nos amis pour des abonnements de 2 ans et de 3 ans, mais payés en francs. Voilà la proposition de National Hebdo.
En francs français. Mon cher Emmanuel, qu'est-ce que vous offrez, vous ? Votre sourire.
Non, parce que non, ce qui me fait rire, c'est que Jean-Claude a dit 100 euros, à peu près 500 francs.
Oui.
Alors moi, je vous conseille plutôt d'envoyer 500 francs, parce que 100 euros, ça fait plutôt plus de 650 francs. Donc, vaut mieux payer, à mon avis, envoyer payer en francs. Donc, après cette petite remarque humoristique, donc, fait les documents, BP 254-09, 75-424 Paris. De toute façon, personne n'aura retenu.
J'adresse en euros,
s'il vous plaît. Téléphonier. Donc, je vous enverrai un ou deux exemplaires, plus le catalogue de mes publications, si ça peut vous intéresser.
C'est tout. Pas de... Non, pas de cadeau.
Bon, et sinon, ce mois-ci, vous pouvez également éventuellement acheter le vrai journal, le vrai papier journal de Carl Zéro, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ils font un article sur les 20 ans des radios libres, et il y a une page extrêmement favorable à Radio Courtoisie. Donc, ils disent que c'est une très bonne radio.
Il y a du louche. Et ben voilà, donc si vous voulez lire le Libre Journal, j'en parle quand même, c'est 4 places France Litz, et vous envoyez 30 francs en timbre, et on vous envoie un exemplaire du dernier numéro qui est bourré de choses rigolotes, je le dis. Notamment, j'ai découvert que Pétain, le maréchal Pétain, avait un cousin tout à fait inattendu. J'en dis pas plus, parce qu'autrement, personne n'achèterait le journal. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris la peine de venir partager cette soirée avec les auditeurs de Radio Courtoisie. Je vous dis au mois prochain pour le clan de la presse.
Eh bien, merci Serge. Au revoir.
Merci Serge.
Par contre, je voudrais donner la parole à M. Scalion qui représente les éditions Saint-Rémy. Et pourquoi j'ai invité les éditions Saint-Rémy ce soir ? C'est parce que nous avons eu il y a 15 jours... un débat entre M. Louis-Hubert Rémy, mais qui n'a rien à voir avec les éditions Saint-Rémy, et l'abbé Cellier, au cours duquel différents textes ont été évoqués, et dont on a dit que c'était des textes introuvables, rares, etc. Or, il se trouve que les éditions Saint-Rémy publient ces textes, qui sont des textes extrêmement importants, pour la compréhension de la situation actuelle, non seulement de l'Église, mais de notre société. Et donc, j'ai demandé à un représentant de cette maison d'édition, qui est à Cadillac, mais qui travaille par correspondance et par Internet, de venir nous parler de quelques-unes des productions de cette maison d'édition, et surtout de du projet éditorial, comme on dit maintenant, de cette société. Pourquoi ont-ils choisi d'éditer ces livres, qui sont évidemment pas tous à la portée des enfants. Vous avez des éditions pour les enfants, mais la plupart des livres sont quand même des grands textes fondateurs, des livres de Lassu, de Monseigneur Henri Lassu, de Monseigneur Gaume, de Monseigneur du Révérend Père Joyot, etc. On va parler de ça dans quelques secondes, juste après la coupure fatidique de 7h30. Alors, Monsieur Salio, vous représentez donc les éditions Saint-Rémy, c'est un libraire éditeur, Saint-Rémy.
Voilà, effectivement.
C'est un petit peu particulier.
Nous avons monté cette maison d'édition il y a 2 ans avec mon frère, suite à une concordance un petit peu de plusieurs événements. Tout d'abord, nous avions un petit peu une passion pour les livres anciens, de par les études que nous avons faites et le catholicisme que nous avons pratiqué, et en même temps une formation d'ingénieur qui nous a poussé vers la conception d'une méthode d'édition un petit peu originale, un petit peu à la mode si vous voulez, en visant le tout numérique.
Alors c'est de la micro-édition en quelque sorte.
Voilà, c'est cela, c'est un petit peu la tendance actuelle de l'édition qui consiste à ne plus faire des éditions en volume, avec des stocks qui coûtent très cher, si vous voulez, pour les éditeurs, mais de l'édition à la demande.
Soyez gentil de bien parler dans le micro, parce que vous parlez à côté du micro, on vous entend très mal.
Excusez-moi, je suis encore très habitué. Donc avec des éditions à la demande qui nécessitent des moyens relativement légers et permettent de répondre à toutes les demandes, qu'elles soient à l'unité ou bien en gros volume. Et donc nous visons par cette maison d'édition la constitution un petit peu d'un catalogue de références dans tout ce qui concerne le domaine catholique pour que les gens puissent un petit peu venir piocher chez nous des sources qu'ils ne trouvent pas ailleurs.
Alors ça veut dire que vous avez donc un catalogue dans lequel que vous adressez aux personnes qui en font la demande, dans lequel il y a des livres qui sont référencés et qu'on peut vous commander. Mais est-ce que ça veut dire aussi que si on cherche un livre particulier, par exemple, je cherche quelque chose qui n'existe pas en France, qui n'est plus trouvable, ça s'appelle Sommaire de théologie dogmatique, ça a été publié au Canada il y a une quarantaine d'années, c'est un ouvrage
qui est rarissime,
essentiel, rarissime. Est-ce que si on vous le demande, vous pouvez le rechercher le...
Oui, alors nous n'offrons pas ce genre de services qui sont déjà offerts par des sites internet très puissants, notamment aux États-Unis, qui fédèrent un petit peu tous les libraires anciens et permettent de faire ce genre de recherche. Nous avons une base de données propre dans laquelle on peut faire des recherches, effectivement, mais qui sont ciblés sur nos livres et nous n'offrons pas ce service qui est très prenant en temps, vous imaginez.
Bien sûr. Alors, vous éditez des ouvrages d'histoire, de philosophie, de théologie, de catéchisme, de spiritualité, et également des ouvrages pour les enfants. Mais il y a la tonalité générale, c'est vraiment la tonalité traditionnaliste.
Voilà, c'est cela. Traditionnaliste encore, nous voulons avant tout nous affirmer catholiques parce que le catholicisme est traditionnel et c'est un petit peu un pléonasme de dire d'un catholique qu'il est traditionnaliste.
Enfin, ça devrait être un pléonasme en tout cas.
Oui, ça devrait, mais effectivement. Et donc nous visons tous les livres de référence du catholicisme. Et effectivement, il est vrai que dans le catholicisme, il y a eu différents courants de pensée, tels que le catholicisme libéral ou d'autres courants qui ont un petit peu édité des livres dont le contenu n'est pas certain. C'est pour cela que nous voulons cibler un contenu parfaitement sûr. Nous avons pour cela une bonne connaissance du catholicisme et des amis qui nous conseillent, ainsi que les prêtres qui connaissent bien ces questions-là.
Alors, par exemple, on dit toujours, quand on parle des travaux de Mgr Gaume, on dit toujours, les livres, on ne les trouve pas. Mgr Gaume, il faut aller dans les bibliothèques, il faut chercher, etc. Or, vous en avez beaucoup.
Oui, voilà, nous sommes un petit peu spécialisés sur Mgr Gaume.
Je vois des choses dont on dit qu'on ne les trouve plus du tout. Le catholicisme dans l'éducation, par exemple, le Pie IX et les études classiques.
Oui,
ou alors, ce qui est encore plus...
Le Ver rongeur des sociétés modernes, par exemple, est un ouvrage type de Mgr Gaume, puisque Mgr Gaume s'est distingué par sa lutte un petit peu contre le catholicisme libéral au XIXe siècle, notamment contre Mgr Dupanloup. Et Mgr Gaume a un petit peu bâti toute son œuvre autour de certains thèmes que l'on retrouve un petit peu dans tous ses ouvrages, spécialement la lutte contre le paganisme dans l'éducation. Alors il a fait plusieurs ouvrages du catholicisme dans l'éducation sur ce sujet, ou bien le Ver rongeur des sociétés modernes, qui dénonce justement le fait qu'on étudie les classiques sans qu'ils soient expurgés, et on laisse un petit peu les jeunes s'imprégner de la mentalité païenne qui est véhiculée par ces livres,
mais y compris
au détriment des véritables notions chrétiennes.
Y compris quand on leur fait lire Fénelon, par exemple, sans attirer l'attention sur les dangers du quiétisme, qui est un exemple entre mille, mais c'est vrai que ça passe comme une chose acquise. Ben pour ceux qui lisent Fénelon sérieusement, qui doivent quand même pas être trop nombreux, le danger est pas très grand, mais enfin, c'est justement d'autant plus dangereux que c'est des gens de qualité en général.
Non, c'est sûr qu'on peut penser que c'est un combat qui date un petit peu, dans la mesure où, surtout au XIXe siècle, c'était un problème qui avait lieu dans les écoles catholiques. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'écoles catholiques. Mais c'est un sujet tout de même qu'il est bon d'étudier, parce que ça nous oriente vers ce qu'il est bon de faire.
Alors, je vois que vous éditez aussi, Monseigneur de Ségur, sur les deux textes sur l'infaillibilité.
Voilà, c'est un sujet qui
le dogme de l'infaillibilité et
passionnant
le pape
aujourd'hui.
Est infaillible, qui est vraiment d'actualité, lui, alors, complètement.
Oui, effectivement, on entend tout et n'importe quoi sur l'infaillibilité. Monseigneur de Ségur était vraiment un proche de Pie IX et a participé au concile et donc est capable de nous en parler. Quand on lit son petit ouvrage « Le pape est infaillible » qui a été fait pour vulgariser justement la question de l'infaillibilité auprès du fidèle moyen, eh bien c'est lumineux, c'est aussi bien qu'un grand théologien, il emploie des mots qui sont pesés, il montre bien que le pape est infaillible dans tout son enseignement, quand il parle ex cathedra, non seulement enfin dans tout son enseignement, quand il utilise les moyens officiels, que ce soit les bulles, les encycliques ou les conciles. Aujourd'hui, on vous dit qu'on confond un petit peu l'ex cathedra avec le solennel, alors que l'infaillibilité, si vous voulez, est à la fois dans le solennel et l'ordinaire. Voilà, ça c'est un point que le conseiller Ségur
un autre document
montre et qui est très intéressant dans ses ouvrages.
Un autre document qui est une somme essentielle, c'est le Jeanne d'Arc sur les autels et la régénération de la France du Père Hérol, qui est vraiment, alors là...
Oui, tout à fait. Nous avons plusieurs ouvrages sur Sainte Jeanne d'Arc, notamment de Monseigneur de la Suisse aussi, la mission posthume, dans lequel Monseigneur de la Suisse fait un véritable... passe en revue toute l'histoire de France et montre le côté surnaturel de la mission de Sainte Jeanne d'Arc dans l'histoire de France. Et c'est un côté très intéressant, car il replace l'événement de Sainte-Jeanne d'Arc dans le contexte de l'histoire, et cela est très lumineux pour avoir une notion chrétienne de l'histoire.
Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces livres qu'on trouve sur certains sites, enfin dans certains magasins spécialisés d'antiquités ou d'ouvrages.
Oui, on peut le trouver par exemple sur librissimo.com, voilà. On trouve certains ouvrages de Monseigneur Gaume, mais je te
ça vaut 1000, 2000 francs.
Ils sont 4 fois plus chers que chez nous. Voilà.
Et chez vous, ça vaut plus de 4 fois, parce que chez vous, oui, par exemple, le catholicisme dans l'éducation, c'est 100 francs.
Oui, nous avons des prix très abordables.
En général, c'est autour de 100 francs, sauf pour certains ouvrages comme Les Pourquoi de la guerre mondiale de Monseigneur de la Suisse, qui est vendu 400 francs, ou d'autres livres qui sont vendus 250 francs,
mais
les prix sont tout à fait. Alors, la présentation est comment?
La présentation, donc nous avons une méthode d'édition qui est basée sur de la scannerisation, et donc c'est de la reproduction à l'identique. Donc c'est d'une très bonne qualité. Et la reliure est faite pour l'instant artisanalement par 4 employés que nous avons.
Mais vous proposez des reliures
Nous faisons plusieurs reliures.
Alors avec un prix supérieur là.
Oui, c'est cela. Pour ceux qui le désirent, nous faisons des reliures de luxe, mais les reliures classiques que nous faisons sont des reliures standards que l'on trouve dans le marché. Simplement, elles sont faites pour l'instant artisanalement, car nous n'avons pas encore fait les investissements nécessaires pour avoir des dos parfaitement industriels.
Très bien. Alors, on va donner l'adresse des éditions Saint-Rémy. Le plus simple, c'est que les auditeurs commandent le catalogue. Ils verront, il y a vraiment des textes tout à fait essentiels, tout à fait importants et passionnants, qui éclairent très
voilà, c'est
très lumineuse l'actualité.
Toute la doctrine chrétienne, dans son ensemble, nous abordons toutes les catégories possibles, que ce soit l'apologétique, de la politique, de la théologie. Et donc on peut trouver un petit peu toutes sortes d'ouvrages.
Et puis quelques bons livres pour les enfants, par exemple
Saint Jean Bosco. Voilà, on apprendra à écrire Toto et Lily, c'est un classique que toutes les familles connaissent.
Alors un auditeur demande si vous avez des ouvrages de Monseigneur Fretel.
Monseigneur Frepel, oui, nous n'avons pas encore d'ouvrage de Monseigneur Frepel, mais nous pensons bien évidemment rééditer cet auteur qui est d'une grande renommée, notamment avec ses ouvrages sur la Révolution. Nous avons énormément d'ouvrages en cours. Nous venons de rééditer la Somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin en latin français, donc ce qui permet, pour ceux qui étudient, d'avoir le texte, la source à côté.
Ce qui est introuvable à l'heure actuelle. Hein.
Actuellement, on peut le trouver.
Oui, mais très très difficilement.
Difficilement, oui.
Parce qu'on trouve la Somme, mais sous ma gentillesse, contre la gentillesse, on le trouve.
On le trouve difficilement, oui.
Et la Somme, ça vaut quand même à peu près 9 à 10 000 francs.
Oui, c'est un coût assez cher, dans la mesure où il y a quand même un certain nombre de volumes. Oui. Donc c'est bien normal que les prix suivent.
Alors l'adresse, Victoria, si vous voulez la dire, de votre méliflue voix.
Groupe Saint-Rémy, librairie, boîte postale 79, 33410 Cadillac.
Voilà, alors,
alors après, elle veut absolument lire
téléphone
les adresses.
Téléphone fax 05 56 76 84, 05 56 76, 74, 80. Et alors là, je vous laisse, cher Serge, vous adorez ça. Lire les adresses internet.
C'est très facile. L'adresse, c'est lito.com. avec toutes les cochonneries devant, les HTTPW et tout ça, qui n'est pas la peine de les répéter, litoo.com, et vous avez une, ça c'est votre site, et vous avez une, un email, un courriel.
Voilà, on trouve toutes nos coordonnées de toute façon sur notre site.
Et info, et email, oui. At, ou info, arrobase, ou info escargot, comme on dit maintenant, info, @lito.com. Lito, c'est L-I-T-2-O.
Voilà, nous disons plutôt Litou, parce que c'est le but, c'est un mot d'ordre un petit peu pour dire aux gens de lire Litou. Nos livres.
Voilà. Très bien. Avec, merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup pour votre
et puis, je trouve que votre initiative est tout à fait intéressante et j'espère qu'elle sera couronnée de succès et que vous pourrez publier beaucoup de bons textes.
Merci,
merci
beaucoup,
bien. Monsieur. Alors, je me tourne maintenant vers un monsieur qui, lui, vient de publier un très bon texte. Il s'appelle Joseph Merel, ce monsieur, et son livre, qui est une somme énorme, est très, très politiquement incorrect, disons-le, dès le départ, parce
oui,
que c'est complètement à l'opposé de tout ce qui se dit, de tout ce qui se,
j'en conviens.
Se répète aujourd'hui. Vous avez intitulé votre livre « Fascisme et monarchie ». Ce qui est déjà intéressant, mais le sous-titre, à mon avis, est encore plus provocateur, c'est « Essai de conciliation du point de vue catholique ».
Oui, c'est cela. Bon.
Alors la première question que je vais vous poser, c'est quand même celle de la définition des termes, au moins d'un des termes, c'est le mot « fascisme ». Parce que le mot « fascisme » aujourd'hui, il est mis absolument à toutes les sauces. Staline était fasciste, ma grand-mère était fasciste, quand elle me mettait au coin parce que j'avais désobéi, moi-même je suis fasciste, tout le monde est fasciste quand il n'est pas d'accord avec son adversaire. Donc qu'est-ce que vous appelez le fascisme ?
Mais écoutez, au sens étroit, le fascisme, c'est une doctrine politique proprement italienne, tout le monde le sait. Au sens large, et sans, dans une perspective qui ne consiste pas à le diaboliser, je dirais que le fascisme, c'est une tentative européenne personnalisée par les nations, par le génie des nations qui ont essayé de le promouvoir. C'est une tentative européenne de refonder en quelque sorte l'ordre d'ancien régime, c'est-à-dire l'ordre européen avant la grande cassure de 89, l'ordre d'ancien régime, mais en évitant de reproduire les travers qui ont précisément précipité sa chute. Il s'agissait donc, en quelque sorte, de refonder une société proprement organiciste et de refonder une aristocratie.
Mais c'est-à-dire une société organiciste, une société hiérarchique ?
Tout à fait.
Mais quand vous dites une société aristocratique, évidemment, c'est une société qui, je pense, ne peut rien avoir de commun avec l'aristocratie de l'ancien régime.
Oui, en effet. Alors, à cet égard, pour aller vite, je dirais que toutes les sociétés d'ancien régime se sont constituées sur l'idée chrétienne, bien sûr, et je dirais que toutes ces sociétés ont essayé, en quelque façon, puisqu'elles étaient catholiques, c'est-à-dire puisqu'elles adoptaient une religion dont le caractère principal est la distinction réelle entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, elles s'efforçaient de réassumer le meilleur de la philosophie, et de la philosophie politique en particulier, de l'Antiquité. Et je dirais que les sociétés d'ancien régime étaient fondées sur le primat du concept politique de bien commun, mais que ce concept politique, pour être opératoire, c'est-à-dire pour prévenir la chute de l'ancien régime telle qu'elle fut opérée par ses détracteurs, supposait que chaque individu fût en quelque sorte vitalement préoccupé par le souci du bien commun, entendu comme le meilleur de son bien propre. Ce qui supposait qu'une telle société fût proprement organique, et j'entends par organicité une société dans laquelle les parties de la société, les ordres, les classes, au sens moderne, enfin il vaut mieux dire les ordres bien sûr, et surtout les césures entre dirigeants et dirigés et les dynasties, n'est-ce pas, sont non pas fondement ou cause efficiente de la totalité sociale, mais procèdent d'une totalité sociale qui, en quelque sorte, leur est ontologiquement antérieure.
C'est
pas très clair.
On voit quand même assez clairement ce que vous voulez dire. La question que ça amène tout de suite, c'est celle de la des dynasties, puisque vous avez évoqué le mot, ou de des successions.
Oui.
Le problème donc de la société fasciste, c'est que elle n'a pas de règles successorales, ni dans son dirigeant, ni dans ses noyaux dirigeants, ni dans ce que vous évoquiez tout à l'heure comme une nouvelle aristocratie, puisque à l'évidence, la seule justification d'une aristocratie fasciste, c'est qu'elle ne soit pas héréditaire, c'est-à-dire qu'elle ne soit donc pas une aristocratie, mais plutôt une je sais pas, une méritocratie, une...
Ah non, pas une méritocratie. Enfin, disons, le défaut de la méritocratie, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est non pas de promouvoir les meilleurs au nom de leur talent, mais c'est de laisser entendre que les meilleurs devraient avoir droit à une position proportionnée à leur talent selon la justice distributive, comme si la société était l'instrument de la promotion des meilleurs. Alors que je crois au contraire que c'est le bien commun de la société qui exige.
Alors comment allez-vous résoudre, comment résout-on dans cette espèce d'éclairage catholique que vous voulez donner à la nature monarchique du fascisme? Je ne sais pas si on peut dire ça.
Oui, nature monoarchique du fascisme.
Monoarchique en tout cas.
Tout à fait, hiérarchisée.
Comment résolvez-vous cette apparente, c'est pas une contradiction, mais c'est cette apparente énigme. Comment une société fasciste peut-elle se survivre à elle-même alors que les générations, le jeu des générations fait qu'à chaque fois, il y a une remise en cause des conditions de l'accession.
Oui, alors il est vrai, en effet, je suis un, disons, je soutiens dans cet ouvrage, j'essaye de soutenir la position de ce qu'on pourrait appeler un fasciste de droite. Je crois qu'il convient de le préciser, puisque beaucoup de gens, par coquetterie parfois, ont revendiqué la paternité du fascisme au nom de principes qui ne sont pas ceux-là même de l'aristotélisme chrétien et qui se sont dit volontiers de gauche. Il s'agit d'un fascisme de droite, il s'agit de ce qu'on appelle vraiment l'extrême droite, la droite absolue, la droite radicale. Quand on est de droite, on l'est complètement.
On a vu ça dans tous les régimes fascistes. Alors, on a vu ça en Italie,
Je m'apprêtais à dire précisément qu'un moyen, le fascisme est une expérience qui a duré fort peu de temps, n'est-ce pas? Historiquement, il est bien difficile de porter un jugement sur une expérience aussi courte, mais je crois que doctrinalement, le fascisme s'accommode volontiers d'une monarchie héréditaire, mais il s'accommode moins facilement d'un système de caste ou d'un système de castes héréditaires. Parce que dans un système de caste, je rappelle un principe de philosophie scolastique élémentaire, n'est-ce pas? La fin est ultime en exécution et elle est première en intention. En d'autres termes, l'ordre chronologique de genèse d'une réalité, et en particulier d'une société, est l'envers de l'ordre ontologique de causalité, en particulier le rapport de la partie avec le tout. Le tout est ultime en, chronologiquement, mais il est, si l'on peut dire, premier, dans la mesure où il est raison, cause finale, n'est-ce pas, de la vie politique. C'est exactement ce que dit Aristote.
C'est un problème qui tient totalement. Enfin, c'est
j'en conviens. Mais alors, à cet égard, je m'apprêtais donc à répondre à votre question, à savoir que je pense qu'un fascisme n'est viable que s'il prend à moyen terme la forme d'une monarchie pour ce qui est du détenteur de l'autorité.
Pas seulement d'une légitimité qui serait une espèce de clé de voûte. D'un système qui...
Écoutez, le problème, c'est le suivant. Alors, dans cette perspective, qu'est-ce que le fondement de la légitimité? Moi,
dans une perspective chrétienne, c'est la naissance.
Alors, dans une perspective chrétienne, enfin, saint Thomas d'Aquin n'est pas de cet avis-là, prudentiellement, on considère que c'est la naissance parce que ça écarte les appétits, n'est-ce pas? Mais du point de vue des principes, le problème ne se pose pas. Ça peut être la naissance, je le répète, pour des raisons prudentielles, mais en vérité, une monarchie n'est pas née. Disons, le constitutif formel de la légitimité, c'est d'ordonner son pouvoir au bien commun, de telle sorte qu'à la limite, le pouvoir appartient à celui qui le prend. Quand un roi fut-il légitime cesse de... C'est le principe de la licéité du régicide défendu par saint Thomas.
Par
saint Augustin. Alors, saint Augustin, c'est un peu autre chose, parce que, et j'en parle un petit peu dans l'ouvrage, saint Augustin laisse entendre que l'ordre politique est en quelque sorte une conséquence du péché originel. Il laisse entendre que le fait d'être l'homme d'un homme, d'être subordonné subordonner à un homme, n'est-ce pas, n'est pas une actualisation des virtualités non pécamineuses de la nature humaine. Il considère au fond que c'est l'ordre qui est induit par le péché, car si l'homme n'avait pas été pécheur, si la nature n'était pas blessée, il n'y aurait pas de pouvoir de l'homme.
D'ailleurs, ce que je ne crois pas, dire, c'est le moins pire.
Voilà. Ah. Alors que pour Aristote, et c'est la perspective dans laquelle je me place, eh bien, le pouvoir politique est bon. L'homme est par nature un animal politique. La hiérarchie est bonne, n'est-ce pas? Et dans cette perspective, je reviens sur ce que je disais juste avant, eh bien, les difficultés d'une aristocratie qui deviendrait héréditaire, les difficultés sont les suivantes, à savoir que l'aristocrate ne tient plus sa position d'une reddition de services publics, c'est-à-dire d'une ordination de ses talents ou biens communs, il tient sa position d'une légitimité qui est purement dynastique ou purement familiale, dût-elle ne pas correspondre à des talents réels, et en fin de compte, il s'agit d'un durcissement qu'il faut bien appeler un durcissement de classe.
Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce que je vous ai demandé, pour commencer, une définition du fascisme, mais naturellement, j'aurais dû vous dire, j'aurais dû vous interroger immédiatement sur les applications historiques que vous retenez comme illustration de cette définition. Alors, est-ce que l'Italie mussolinienne était un État fasciste? Est-ce que l'Allemagne hitlérienne était un État fasciste? Est-ce que l'Espagne franquiste était un État fasciste? Est-ce que la Hongrie ça y est, j'ai un trou comme d'habitude, c'est pas grave, ça me revient. Horthy était un État fasciste. Est-ce que Juan Perón était un chef d'État fasciste? Voilà, des questions. Oui. Alors, qu'est-ce qui correspond?
Alors, à ce propos-là, je tiendrai des lieux communs, des choses que tout le monde sait. Je crois profondément que l'Italie était évidemment fasciste et je pense dans une certaine mesure qu'on peut le dire, si tant est qu'on retienne la définition que je propose, on peut le dire aussi de l'Allemagne nationale-socialiste. Avec cette différence toutefois que pour, disons, la doctrine fasciste est d'inspiration à bien des égards, elle est d'inspiration hegélienne quant à sa philosophie de l'État. N'est-ce pas? Aristotélo-hégélienne, dirais-je, alors que la doctrine d'Hitler, si tant est qu'on puisse parler d'une doctrine, semble, je dis bien, subordonner l'État à la nation. Je dirais que pour un authentique fasciste, la nation est une réalité éminemment nécessaire, c'est une catégorie politique fondamentale, à la différence de la monarchie légitimiste d'ailleurs, mais c'est une catégorie qui est à l'État comme la matière est à la forme ou la puissance à l'acte. Et de ce point de vue-là, l'État n'est pas l'instrument de la glorification de la nation. Il y avait cette tendance dans le national-socialisme, mais très vite, et vous le savez aussi bien que moi, on peut dire que Perón avait des tendances fascisantes, on peut le dire, bien entendu, de Mussolini et d'Hitler, on ne le dira pas de Franco.
Mais dans l'hitlérisme, il y a une négation même de ce que vous dites. C'est-à-dire que l'hitlérisme est un nationalisme au début, et puis très très vite, ça devient un internationalisme.
Ah, mais je m'en réjouis, et je ne pense pas du tout le nationalisme comme antinomique de l'idée européenne. Bien au contraire. Je dirais qu'il y a, si vous le permettez, trois formes de nationalisme. Il y a d'une part, parce que c'est un mot éminemment équivoque, il y a d'abord le nationalitarisme, qu'on peut définir comme le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes, qui est un sous-produit démocratique, un sous-produit de la décadence, un sous-produit de l'insurrection antinaturelle de 89. Il y a d'autre part un nationalisme qu'on définit volontiers comme le droit des peuples à rester eux-mêmes, qui est beaucoup plus honorable, mais qui peut-être en vertu de travers nominalistes et à bien des égards subjectivistes ou relativistes ou historicistes, tend à considérer que l'universalité dans l'ordre culturel est impossible. En d'autres termes, nous avons le devoir d'être fidèles à nos pères, de faire fructifier ce que nous avons reçu, de creuser notre identité. Quant à savoir si ça a une valeur dans l'universel, s'il y a une vérité absolue, une vocation absolue de l'homme, etc., nous l'abandonnons. Il y a une troisième forme de nationalisme, et c'est celle que je retiens, et qui est précisément, me semble-t-il, soutenue par le fascisme italien, qui se définit comme un universalisme, et qui reconnaît volontiers que si le fascisme est né en Italie, l'idée fasciste n'a rien d'italien, parce qu'elle est universelle. De ce point de vue-là, les nations sont pensées comme autant de manières d'être homme, n'est-ce pas? Et elles sont pensées non pas du tout comme, disons, elles tiennent leur valeur, elles considèrent elles-mêmes que leur propre valeur tient longtemps à un patrimoine biologique déterminé ou à des choses de cette nature, mais au fait qu'elles sont porteuses de valeurs qui de soi sont universelles et qui sont expressives de ce qu'exige la nature humaine. Voilà, donc la nation en tant que réalité particulière se veut porteuse de valeurs universelles. Elle se veut une individuation de l'universel et restituée culturellement à l'universel. Elle ne se veut pas une particularité qui serait exclusive de l'universel.
Alors, en ce sens, enfin, si je vous comprends bien, l'assimilation automatique qui est faite en ce moment entre fascisme et racisme est totalement infondé.
Alors, du point de vue proprement mussolinien, bien sûr. Du point de vue hitlérien, il faut bien dire la vérité, et de sous ce rapport, je propose une critique dans une perspective toujours aristotélo-thomiste, ouverte à la philosophie moderne, ou du moins à ce que je crois être le meilleur de la philosophie moderne, une critique bien entendu du déterminisme raciste, n'est-ce pas, que je crois non pas expressif de l'essence du national-socialisme, mais expressif de la conscience pour le peuple allemand, littéralement écrasé après la guerre de 14 et spolié, n'est-ce pas, tout le monde connaît les scandales du traité de Versailles, et puis les scandales plus anciens que j'évoque d'ailleurs, à savoir le nationalisme des Bourbons, des Capétiens, qu'on veut toujours défenseurs de la monarchie et de du catholicisme, alors qu'ils se sont fait bien souvent les fourriers de l'islam, n'est-ce pas, et du protestantisme par intérêt ultranationaliste au sens étroit du terme. Mais enfin, j'ai perdu mon idée, je vous prie de m'excuser. Je dirais donc, oui, le racisme, dans ce qu'il peut avoir d'excessif et de tout à fait brutal, je pense en particulier à l'égard des Ukrainiens, enfin des choses comme ça, grotesques. C'est en bonne partie à cause de ça qu'il a raté son coup. Eh bien, je dirais que ce racisme est plus l'expression d'un souci pathologique de retour, de recherche d'identité, qu'un fondement réel. C'est ce que disait ce Léon de Grelle, n'est-ce pas ? Léon de Grelle disait lui-même, enfin, les pauvres théories raciales d'Hitler, elles n'auraient pas tenu 10 ans si nous avions gagné la guerre, disait-il, dans la mesure où tous ces soldats, n'est-ce pas, qui venaient de toute l'Europe, auraient trouvé les Ukrainiennes encore plus blondes qu'eux, encore plus belles et encore plus aryennes, entre guillemets. Que... Donc je souligne c'est évidemment ces travers qui, à mon avis, sont circonstanciels.
Maintenant, comment expliquez-vous que des antagonismes, enfin une hostilité aussi violente, je ne vois pas d'autre mot, aussi univoque, se soit manifestée, notamment de la part de l'Église, contre les fascismes, ou en tout cas se manifeste aujourd'hui, alors que quand on lit votre livre, on a effectivement le sentiment que il y a dans une possibilité, comme vous le dites, de concilier le point de vue catholique, le point de vue fasciste et le point de vue monarchique ou monarchique.
Oui.
D'où vient cette hostilité, cette condamnation, cet opprobre? Est-ce que c'est quelque chose d'authentique? Est-ce que ça vient vraiment d'une opposition fondamentale, en quelque sorte organique, ou est-ce que c'est pas une façon de céder à une mode, à un courant de pensée général, aux politiquement corrects?
Alors, oui, il y a plusieurs raisons, et je vous remercie de poser la question. Il y a bien entendu la peur, n'est-ce pas, des gens qui acceptent... Vous savez, aujourd'hui, le monde est un monde, je ne le décrirai pas, vous le décrivez parfaitement d'habitude dans vos émissions. À vue d'homme, il faut bien avouer que nous avons le sentiment qu'il n'y a plus grand-chose à faire, la pourriture est telle, qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir maintenant. Ce qui est certain, c'est que ce monde est issu de principes pervers, de principes antichrétiens et antinaturels, qui, comme tels, n'ont pas d'unité positive et qui ont besoin de se constituer une unité négative par référence répulsive à l'égard d'un mal constitué comme absolu. Ce mal absolu, c'est évidemment l'Europe, c'est évidemment ce qu'on appelle la croisade des fascismes, n'est-ce pas ? Précisément parce qu'il leur a fait peur.
Mais ça, c'est, qu'il a failli réussir. C'est le vieux truc du golem.
Oui, tout à fait.
On fabrique une bestiole ou un être, une créature qui fait peur.
Tout à fait.
Et on finit d'ailleurs par se faire peur à soi-même à force de manipuler cette bestiole.
Exactement. Alors, il y a, il faut convenir qu'il y a aussi des tensions considérables entre ceux qu'on a appelés les fascistes et bien entendu les tenants de la monarchie. Je rappelle à cet égard qu'il y a deux formes en France de manière d'être monarchiste. Les monarchistes qui se disent légitimistes et les monarchistes nationalistes d'inspiration maurassienne. Les maurassiens, nous savons...
Encore que on peut, pardonne-moi de vous couper, mais c'est une question personnelle. Enfin, c'est un sujet qui me touche personnellement. On peut très bien être légitimiste et maurassien.
Alors là, je vous avoue que j'ai du mal à vous suivre, mais je vous lirai volontiers. Disons que le nationalisme maurassien, enfin disons les tenants maestriens souvent du légitimisme ne reconnaissent pas la pertinence même de l'idée de nation, puisqu'aussi bien ils considèrent que l'idée de nation est intrinsèquement jacobine, ce que je ne crois pas du tout. Je crois profondément que, précisément, il appartenait à la monarchie d'accoucher de la nation, et comme ça n'est pas elle qui l'a fait, ce sont les méchants qui l'ont fait à sa place et qui en ont proposé un concept dévoyé. Cela étant dit, donc, si tant est qu'on puisse simplifier, on dira que les légitimistes recusent l'idée de nation et ils considèrent que le prince, la cause efficiente de l'unité d'une communauté politique, c'est la référence à une dynastie, sans communauté de destin organique. Oui. Les maurassiens, je rappellerai une chose. On parle souvent du nationalisme et de l'organicité maurassienne. On oublie souvent que le politique d'abord, c'est d'abord dans l'ordre du temps, dans l'ordre de la priorité, dans l'ordre de l'agir, mais pas du tout dans l'ordre de la fin poursuivie.
C'est exactement ce que vous évoquiez au début de votre intervention.
Oui.
C'est cette question de l'apparente primauté.
Tout à fait.
Et de l'apparente secondarité de certains points, de certains éléments de la réflexion. Et en fait, on voit bien que ça a été analysé d'une façon, je trouve, très intéressante, parce qu'autrement, je n'aurais pas publié dans le livre journal, par l'abbé Guimary, qui dit l'idée de politique d'abord de Maurras, c'est très exactement conforme à la mariologie, c'est-à-dire que c'est à Jésus par Marie. Et le mécanisme est exactement le même. Il y a une différence entre la cause première et la cause seconde. Quand on dit politique d'abord, et ça n'est pas la politique d'abord, parce que c'est plus important, il faut en passer par la politique.
Alors, à cet égard, précisément,
c'est pour ça que l'abbé Guimary évoquait le rôle de la Sainte Vierge. Mmh. L'hyper du lit n'est pas en soi, alors le culte de la Vierge n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'accéder à
autant la chose me paraît légitime si on laisse entendre que le politique d'abord est premier dans l'ordre du temps, second dans l'ordre de la finalité, si et seulement si c'est une finalité surnaturelle. Dire du politique qu'il est tout entier subordonné à une finalité surnaturelle, n'est-ce pas, qui transcende la contingence de l'histoire, bien sûr, je ne serais pas catholique autrement. Mais laisser entendre que le politique est subordonné au bien particulier temporel de la personne, ça n'est pas aristotélicien,
ça n'est pas une
philosophie du bien commun, non. Et c'est celle de Maurras, qui dit que l'économie est plus importante que le politique, la vie familiale est plus... Saint Thomas dit lui-même que le bien commun de la famille est subordonné au bien commun de la cité.
Absolument, ça c'est clair. C'est ce qui fait de nous, c'est ce qui fait que les hommes ne sont pas exactement des animaux.
Alors à cet égard, je me permets pour répondre à votre question, la difficulté qui a existé historiquement et qui a troublé beaucoup de gens, c'est vrai, entre les fascistes, quelle que soit leur couleur, et les catholiques, n'est-ce pas, c'est les reproches qu'on a fait d'habitude, à savoir tendance à hypertrophier le rôle de la nation, tendance à absolutiser l'État et à ne pas tenir compte, n'est-ce pas, de cette subordination requise l'État à la religion.
En même temps, on prend cette position, mais en même temps, on a des admirations contraires. Je prends un exemple. On nous cite, parmi les modèles de la droite en France, de la vraie droite, je veux dire, la droite historique, la droite nationale, la droite qui pense à droite, parmi les modèles, il y a le colonel Moscardo, à l'Alcazar, qui dit à son fils, prépare-toi à mourir.
Oui, c'est admirable.
Là, on est exactement dans la situation de quelqu'un qui, confronté, alors dans sa chair,
bien sûr,
à ce problème de priorité, quelle est la première des priorités? Est-ce que c'est le bien familial, le bien personnel ou le bien commun?
C'est le bien commun.
Choisis le bien commun.
Bien sûr.
Bon. Donc, on est toujours confronté à cette espèce de nécessité de donner des exemples pour faire comprendre ce qu'on veut dire.
Bien
parce
sûr.
Que chez nous, les gens disent, mais c'est évident que la famille est première, la cellule familiale, elle est première. Mais elle est première dans l'ordre
du temps.
Du temps, mais elle n'est pas première, évidemment, non. dans l'ordre
de la causalité, de la causalité et de la finalité. Ouais. Et à cet égard, je crois que contre les jongleries personnalistes de Gilson ou de Maritain, n'est-ce pas, qui vont faire de Saint Thomas un existentialiste et qui vont le récupérer au profit de la démocratie chrétienne, je crois qu'on peut rappeler tout de même que l'homme est subordonné, l'individu catholique, je dis bien, n'est-ce pas, croyant, dans un contexte de foi, est subordonné au bien commun de la cité, bien commun immanent, au bien commun de la cité, n'est-ce pas, mais qui a le statut de fin. Mais certes, de fin intermédiaire. La fin universelle, la fin absolue, c'est la communion des saints et la gloire de Dieu, évidemment. Mais faire de la... Disons, il y a une formule dont il faut bien avouer, avec le respect qui est dû à un pape, une formule qui est bien équivoque, c'est la formule, n'est-ce pas, la cité est pour l'homme. Oui, mais la cité est pour l'homme, ça ne veut pas dire qu'elle est pour l'individu. Ça veut dire qu'elle est pour l'homme en tant qu'il a une vocation surnaturelle, mais l'homme en tant qu'individu, et même en tant que personne, il est pour la cité. Et ce sont des principes catholiques, ça.
Je crois que c'est une formule facile qui est traduite directement du talmudisme, qui dit c'est le sabbat qui est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. mais c'est exactement ça, je crois réellement qu'on est là dans une espèce de tentative de réapproprier ou d'appropriation d'un raisonnement qui n'appartient pas à la tradition catholique.
Mais oui, il y a le catholicisme assume absolument le meilleur du paganisme, n'est-ce pas ? Et il distingue réellement entre nature et surnature, n'est-ce pas ? La grâce ne supprime pas la nature, elle la perfectionne. Donc la nature est exigitive en quelque sorte de son accomplissement immanent dans l'intérêt même de la fructification de la grâce. Quand on comprend ça, on comprend que l'homme qui est par nature un animal politique tende vers le bien commun de la cité comme vers la réalité en acte de toutes les virtualités de la nature humaine et qui constitue à raison de fin pour lui en tant que personne. Mais et c'est précisément s'il se subordonne à cette fin intermédiaire qu'est la cité qu'il a quelques moyens, n'est-ce pas, de se subordonner à une fin transcendante. On ne peut pas court-circuiter la nature. Il faut être luthérien pour ça. Alors, il y a un autre problème, c'est les difficultés qu'ont eu les fascistes à l'égard des monarchistes. Quelqu'un qui vous dit, vous avez échoué lamentablement par votre décadence, votre dégénérescence,
ça
ne leur fait pas plaisir, on n'a plus besoin de vous, on reconstitue une aristocratie à votre place. Alors ça ne leur plaît pas beaucoup. D'autre part, cette espèce de nationalisme étroit maurassien qui est violemment anti-germanique, pathologiquement anti-germanique, avait bien du mal évidemment à concevoir, peut-être à cause du positivisme de ses origines, l'idée d'un bien commun européen et l'intérêt d'un Saint-Empire. Dont je rappelle que dans l'esprit du catholicisme, il avait en quelque sorte la priorité par rapport à la monarchie française.
Là, je vous écoute, mais je ne vous suis pas. Mais enfin, ça, c'est...
Disons, de fait, je crois qu'on peut rappeler, comme l'ont rappelé des historiens récemment, que la France, qui se dit toujours fille aînée de l'Église, la France a favorisé de manière systématique le protestantisme en Allemagne pour
des raisons. Bah oui, pour des raisons politiques.
On a vu le résultat.
De même que François Ier
l'islam
favorisé, si on peut dire, l'islam, pour des raisons stratégiques, même.
Oui.
On peut le comprendre. Enfin, on peut. C'est quand même assez facile de juger a posteriori.
Non, j'en conviens, mais on peut toujours se dire aussi, bien sûr, nous sommes le produit de gens remarquables. J'ai moi-même beaucoup d'admiration pour Maurras, quand on est de notre génération, quand on voit l'état du monde aujourd'hui. N'est-ce pas ? Quand on voit qu'il n'y a plus rien à faire, que tout est pourri à un point qu'on n'imagine pas, et quand on se dit l'unique chance dont disposait la race blanche et l'Europe de ne pas crever complètement, c'était peut-être de favoriser la victoire par la croisade des fascismes de ce qui restait du meilleur, non encore corrompu, l'ancien régime, on a quelques raisons d'être nostalgique, si j'ose dire, ou du moins de se poser des questions.
Et on peut s'interroger sur le fait qu'il y a là un antagonisme... Enfin, d'où vient cet antagonisme ? Qu'est-ce qui l'inspire ? Parce que c'est vrai que c'était irréductible entre Maurras
ils ont favorisé le gaullisme, ils ont favorisé les anglo-saxons, ils ont favorisé l'Union soviétique, on a vu le résultat. Ils ont eu la peau du fascisme, ça c'est certain. Maintenant, ils sont contents.
Voilà, comme je vous l'avais dit, on peut dire que le livre de Joseph Merelle qui s'appelle « Fascisme et monarchie » n'est pas très exactement un livre politiquement correct, mais c'est un livre tellement... D'abord, vous avez pu mesurer la qualité de... de la pensée et de l'expression de Joseph Merel.
Merci.
Mais et c'est un livre, alors je veux le dire, c'est un livre qui n'est pas du tout compliqué à lire. Non, parce qu'il est, c'est vrai qu'il faut le lire lentement, avec attention, mais il n'y a pas de grande partie d'interminable. Il y a beaucoup de petits chapitres qui expliquent clairement les choses, qui resituent dans le contexte historique, etc. Et ça, c'est très très bien fait. Et puis, il y a des annexes qui sont tout à fait intéressantes. Je n'entrerai pas dans le détail de ces annexes, mais c'est un bouquin, à mon avis, essentiel. C'est un bouquin totalement original, totalement nouveau. Je crois que personne n'a jamais fait le travail qu'il avait fait. C'est un livre qui mérite d'être lu. Alors, ça s'appelle « Fascisme et monarchie, essai de conciliation du point de vue catholique ». Et je vous recommande de le... Alors, vous pouvez le commander soit en Belgique, ce qui est peut-être un petit peu compliqué. Non, pas vraiment, on peut. Alors, je donne l'adresse en Belgique. VHO, boîte postale 60... B2600 Berchem, B-E-R-C-H-E-M 2 Belgique. Le prix est de
120 francs.
120 francs. Oui, c'est 120 francs ou
120
oui.
francs, je crois.
120 francs, et puis
avec
les frais de port qui doivent se monter à peu près à 30 francs. Donc je pense que si vous envoyez 150 francs à VHO, boîte postale 60, B2600 Berchem, B-E-R-C-H-E-M 2 Belgique, vous recevrez ce livre passionnant et important. Si vous répugnez à envoyer de l'argent en Belgique, je signale que la Saint-Antoine, qui est la société de vente de livres par correspondance jumelle du Libre Journal, peut vous fournir ce livre sans difficulté.
Très bien.
Mais on peut parfaitement le commander en Belgique, il arrive normalement, enfin je pense. Merci beaucoup, Joseph Merel.
Merci beaucoup pour votre accueil.
J'espère que vous reviendrez nous voir parce que vous avez un point de vue qui est d'une très grande originalité et qui tranche vraiment d'une façon vigoureuse et plaisante sur le discours actuel.
Ben, j'en suis honoré. Je vous remercie pour votre accueil.
Merci à vous. Willy Vermeling. Wollen Sie bitte hier setzen? C'est comme ça qu'on dit, non? Est-ce que tu veux t'asseoir ici?
Jawohl.
Je te taquine toujours. Tu voulais nous parler de Radio Silence?
Oui, avec grand plaisir. Alors, Radio Silence...
Alors, dis-nous comment ça se passe. Parce que Radio Silence, il faut donc dire ce que c'est d'abord.
Radio Silence célèbre le premier anniversaire, le 18 juin.
C'est vrai, ce que vous entendez, c'est le micro qui bouge parce qu'il est tellement grand, cet animal, qu'il faut lui mettre un micro girafe.
Et pour cela, nous faisons un dîner-débat le 7 juin. C'est pratiquement à 10 jours près de la première émission, l'an dernier. Et Radio Silence est une radio uniquement sur Internet. Pas une radio diffusée aussi sur Internet.
Comme Radio Courtoisie.
Comme Radio Courtoisie, mais une radio conçue pour l'Internet. Avec les deux énormes avantages. Toutes les émissions à n'importe quelle heure et quelle minute... Et deuxièmement, vous faites votre programme vous-même.
Voilà, on va sur Internet, on voit, il y a une liste d'émissions, on clique sur l'émission qu'on veut écouter et on peut l'écouter. Voilà. Alors, si quelqu'un se réveille à 4 heures du matin et dit « il faut absolument que j'entende Michel de Poncin », il va
Serge de Becquet,
j'évite de le citer moi-même, il va sur son Internet et hop, il écoute Michel de Poncin, il va bientôt pouvoir écouter Plancard à sac.
Absolument.
Il va faire une chronique.
Oui, il commence
il maintenant. Il peut écouter également Villemarais.
L'abbé Augustin.
L'abbé Augustin, et qui encore plein de gens passionnants.
Michel de Poncin. Bon, et je fais un peu les nouvelles religieuses le week-end.
Qui sont bonnes, hein.
Il y a
Je les pille pour le Libre Journal, parce que elles sont très très bien faites, les nouvelles religieuses.
Alors, il y a des nouvelles, donc, tous les jours. Ça, c'est un fait rarissime dans le monde catholique. Mmh. Qu'on donne des nouvelles qui arrivent le matin et le soir, ils sont sur Internet. Mmh. Donc là, on casse un peu des tabous. Chez nous, on réfléchit, n'est-ce pas? Et après 3 semaines, on entend ce qui s'est passé. Tout le monde, on est déjà avec les nouvelles et les anciennes nouvelles, personne ne s'y intéresse plus. Donc là, on suit du jour au jour ce qui se passe et on le commente dans un esprit chrétien. À la limite, on veut arriver à dire qu'il pleut ou qu'il pleut pas. Je préfère entendre ça d'un catholique que d'un franc-maçon.
C'est pas tout à fait le même sens, probablement. Il faut expliquer, parce que ça fait deux fois qu'on utilise cette expression dans cette émission ce soir. Les francs-maçons disent il pleut quand ils sont en réunion entre francs-maçons et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de la boutique. Alors, pour faire savoir qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de la boutique, sans dire attention, il y a quelqu'un qui n'est pas de la boutique, ils disent il pleut. Oui. Voilà, j'ai trahi un lourd secret maçonnique. Oui.
Et puis, on a cassé encore un tabou. On a installé cette semaine l'émission Humour. Alors ça, c'est pas tellement catholique non plus. Et il y a une première petite histoire.
Qu'est-ce qui fait
je la donne ou non? Je sais pas.
C'est à toi.
Mais je donne plutôt celle pour l'année prochaine, pour la semaine prochaine.
Politique
alors
correct.
Là, je la donne en avance. Alors vous allez voir, parce qu'elle est très courte, deux lignes. Hein. Deux amis, un moderniste, un traditionnaliste. Le moderniste, il dit le lundi à son ami traditionnaliste, mais dis donc vos messes, moi je les aime bien, mais les gosses qui braillent tout le temps, hein. Et le traditionnaliste qui répond, ça vous change un peu avec vos claquements de dentiers. C'est méchant.
Oui, c'est
mais c'est gentil
méchant.
Quand même.
C'est vrai parce qu'il y a des enfants qui piaillent, il y a des dentiers qui claquent toutes les églises.
Oui. Alors, celui de cette semaine, elle est beaucoup plus longue, cette histoire, je peux pas la donner, mais elle est super. Et c'est une histoire belge, excusez les amis belges qui nous écoutent, n'est-ce pas?
Mais bien sûr qu'ils nous écoutent, absolument. Nous avons même un lieutenant de cavalerie belge qui nous écoute, un lieutenant-colonel de cavalerie royale qui nous écoute avec beaucoup d'attention sur Internet.
Et en plus, c'est Internet, voilà.
Alors, ce dîner se passe quand et où?
Alors, donc, le jeudi 7 juin. Avec Serge de Bekech comme invité d'honneur.
Tiens, fait bien de me prévenir.
Avec quelques incorrections dont on ne connaît pas encore la teneur, parce que ça se passe le matin et nous on entend ce qu'il en dit le soir, n'est-ce pas? Alors le 7 juin à 20h à l'Alzaco, en plein Paris. L'Alzaco c'est...
10 rue... Condorcet.
Condorcet. Bien. Ah. 10 rue Condorcet. Mais s'il vous plaît, faites pas de réservation directement, parce que sinon on contrôle plus combien on est. C'est un nombre de sièges limité.
Je contrôle.
Bravo. Alors, tout doit passer par un chèque que vous envoyez si vous voulez venir. 180 francs, une place, un dîner, un gros de choucroute, n'est-ce pas? Et puis, flammekuchle en option pour ceux qui veulent pas la choucroute ou la fondue alsacienne. Enfin... Super, hein, avec quelque chose avant et après. Bon, le 7 juin, 20h, l'Alzaco, et vos chèques, s'il vous plaît, tout de suite, parce que on donne les places au fur et à mesure que le chèque arrive, à La Voix du Silence. La Voix du Silence, c'est une association qu'on a créée pour gérer Radio Silence. Mais pas nécessairement le même titre. Hein. La Voix du Silence, 5 rue Dufresnois, 75 116 Paris.
5 rue Dufresnois, 75.
Alors,
Paris.
Il n'y a pas de téléphone, il n'y a que les lettres qui seront respectées dans l'ordre d'arrivée. Voilà.
Très bien, merci.
Alors, vous êtes les bienvenus.
Merci Vinny. Et puis, rappelons quand même l'adresse internet de Radio Silence.
Alors, c'est simple, c'est http://, et puis comme toujours, alors www. Et maintenant ça commence. radio-silence.org. O-R-G.
Comme organisation.
Voilà, je répète. www.radio-silence.org. Et vous avez tout de suite le Paternoster chanté par le pape qui?
Oui, ça, alors là, on en reparlera.
Mais c'est l'accompagnement qui te plaît pas.
Non, pas
le fond te plaît quand même.
Oui, bah oui, le Paternoster, ça va, j'y suis fait, mais le côté, ça, alors là, bon, enfin bref, d'accord, après tout, c'est pas moi le patron.
Non, il parle de l'accompagnement, effectivement, de Sony qui est un peu, pour les Japonais peut-être.
Voilà. tu prépares un pèlerinage en Russie?
Oui, alors là, juste une pré-annonce, peut-être ça intéresse plus que un, mais comme ça, c'est un grand voyage, je le dis maintenant. Nous préparons pour Pâques l'année prochaine. un grand pèlerinage en Sainte-Russie. Et ça, c'est pas Radio Silence, ça c'est UNEC, Union des Nations de l'Europe Chrétienne. En quart, nous partons par la mer Baltique en bateau de Travemünde en Allemagne et nous arrivons à Tallinn en Estonie, une merveilleuse petite ville du Moyen-Âge qui est restée intacte à travers le communisme, le nazisme. Personne n'a vu cette petite ville-là, elle est restée telle quelle. Vraiment un bijou. Mais ça, on le fait au passage, on va découvrir cette ville.
On annonce comme ça, mais tu reviendras nous en parler.
Voilà, et puis 180 km, on est à Pétersbourg. Et là, on veut célébrer la Pâque avec nos frères de l'Est, parce que c'est là-bas, on célèbre Pâques le 5 mai. Et chez nous, le 31 mars, voyez, l'année prochaine, c'est très différent.
C'est très, très éloigné.
Et on revient par la Pologne, partout des rencontres. On veut même voir le patriarche, si possible, avec Sédu. On a une énorme icône pour lui. Et on va parler un peu affaires, n'est-ce pas,
donc,
entre catholiques et orthodoxes.
Voilà, ça va être un sujet intéressant. Prévoyez de passer votre première semaine de mai, enfin la première quinzaine de mai 2002, voilà, si Dieu veut, dans la Sainte-Russie.
Alors, ceux qui sont intéressés peuvent nous écrire déjà maintenant.
À l'UNEC.
Et ça, c'est à l'UNEC. Donc, avec l'adresse...
Alors, l'UNEC, l'adresse, ben, on la connaît, c'est boîte postale 114, 95 210, Saint-Gratien.
Vous êtes les bienvenus.
Merci, Vinny. À bientôt.
Merci.
Bah, samedi, d'ailleurs, samedi en huître, pour notre dîner.
C'est pas samedi. Le 7, c'est un jeudi.
Un jeudi, oui, voilà, n'importe quoi. Ouais.
7 juin, jeudi.
Alors, jeudi. Alors, je me tourne vers maintenant Pierre-Henri Bunel, que vous attendiez tous, parce qu'il vient souvent, enfin, il vient de temps en temps à cette émission. Et là, on va parler de son dernier bébé, Mes services secrets, souvenir d'un agent de l'ombre. Et je voudrais commencer à dire une chose, je ne vous l'ai pas dit, Pierre-Henri Bunel, jusqu'à présent, mais... je trouve ce livre meilleur que le précédent. Alors, j'attends le troisième avec impatience, parce que il est à la fois... il est plus construit et écrit d'une façon beaucoup plus détachée. Détachée, je veux dire, dans le bon sens du mot. Je ne sais pas si vous voyez ce que
je
veux dire.
Je comprends
tout. C'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu d'une façon finalement très, très pleine d'humour. Et c'est très plaisant à lire parce que c'est une façon de découvrir les services secrets. J'ai quand même lu quelques bouquins sur les services secrets. Je n'ai jamais lu ces choses-là. Je n'ai jamais vu les choses racontées de cette façon-là par quelqu'un du sérail, par un échappé de la basse-cour, si j'ose dire, qui dit, attendez, je vais vous raconter comment ça se passe. Alors, il y a des moments irrésistibles.
Bah écoutez,
mais
c'est
en plus, c'est plein d'informations. Alors, voilà. Alors la question traditionnelle que je pose toujours, parce qu'elle me paraît essentielle, c'est pourquoi ce livre ? À quoi ça sert de faire ce livre-là ? Alors que quand vous avez écrit votre premier livre, qui était Crime à l'OTAN, qui était le livre...
Crime de guerre à l'OTAN,
qui était le livre qui portait sur votre expérience douloureuse dans les Balkans, et les suites de cette expérience douloureuse, on ne va pas y revenir. Je crois que tous les auditeurs savent que vous avez été accusé du pire des crimes pour un officier qui est...
La trahison.
Bon. Et que vous continuez à souffrir de cette accusation avant qu'elle soit balayée qu'elle s'effondre sous le poids du ridicule. Bon. Alors ça, on comprenait pourquoi vous aviez écrit ce livre. Et celui-là, quel est son objectif ? C'est pas une façon de... Comme on envoie une lettre de rupture à une femme aimée ?
Non, c'est pas exactement ça. Vous avez parlé du retour de mon humour. Quand on a pris un grand coup dans la figure, on est blessé, on souffre, et puis peu à peu, ben, la douleur s'estompe. Pour plagier Edith Piaf, je dirais on n'oublie rien, mais on s'habitue. Alors, le premier livre a été écrit... dans une période particulièrement aiguë, qui dure encore, qui est la guerre des Balkans. Donc j'ai fait un témoignage d'urgence sur la guerre des Balkans. On m'a dit que c'était un plaidoyer pro-domo, il y a peut-être de ça. Le deuxième, en revanche...
On a dit autre chose, pardon, à propos de crime de guerre à l'OTAN, c'est qu'on vous a accusé, et je l'ai entendu plusieurs fois, d'être un mythomane. Et là, on a l'impression aussi qu'avec ce livre-là, vous avez voulu dire un mythomane. Alors parlons-en.
Voilà. Alors ça, plusieurs fois, on m'a accusé d'être affabulateur ou mythomane. C'est pour ça que dans celui-là, j'ai mis des photos, même si j'ai caché quelques visages. Alors, On verra bien, de toute façon, avec le déroulement de la guerre des Balkans, qui n'est pas finie, puisqu'elle continue en Macédoine, on verra bien que j'étais pas un mythomane. D'ailleurs, j'étais sûrement pas un mythomane, puisque on voit bien que dans la région de la région frontalière entre la Serbie et le Kosovo, l'OTAN et l'ONU ont demandé aux Serbes de revenir remettre de l'ordre. Bon. Si c'est être mythomane de dire que Hajem Tchékou a participé à l'épuration ethnique anti-serbe dans les Krajina, ça veut dire qu'on nie l'évidence. Mais après tout, nos politiciens n'en sont pas à une première négation d'évidence. Non, le deuxième livre, ça répond à des demandes. Il y a des gens qui m'ont dit, ton premier était bien, bon, c'était sympa, mais en fait, ils veulent en savoir plus. En plus, j'ai quand même un devoir de témoignage vis-à-vis de ma femme et de mes enfants. Vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes amis, ceux qui m'ont fait confiance, qui ont continué à me faire confiance. Parce que, mine de rien, depuis que je suis entré, que j'ai quitté l'artillerie pour le renseignement, j'ai mené une double vie. Bon, une double vie au service de mon pays. Mais enfin, j'ai fait en fait ce que je ne voulais pas faire.
Oui, alors ça c'est la première surprise qu'on a. En lisant ce livre, c'est que on a l'impression, quand on a vécu un peu dans les milieux militaires, moi j'étais à l'école militaire, donc j'ai eu des copains qui ont fait des carrières militaires, et quand ils étaient jeunes officiers, qu'ils étaient préparés Saint-Cyr ou des choses comme ça, et souvent ils disaient, moi j'irai bien plus tard dans les services, enfin on sentait qu'il y avait une espèce d'attirance romantique autour de ça. Et là, ce qui apparaît dans ce livre, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est pas un choix personnel, c'est une espèce de... Vous êtes en quelque sorte aspiré,
voilà,
par les circonstances.
Alors en fait, ce qui s'était passé, c'est pourquoi il y a un chapitre dont le sous-titre est « Ou comment un Saint-Syrien choisit le miel au lieu du sucre ?» Bon, c'est que les perspectives qui m'étaient offertes en suivant un cursus normal me paraissaient particulièrement soporifiques. Donc, tout est venu par l'attrait que j'ai pour les langues étrangères. Et en particulier pour l'arabe.
Alors, on vous dit il y a un stage d'arabe.
Voilà,
stage d'arabe, ça m'intéresse. Et là, une fois, pratiquement, dès que vous commencez ce stage d'arabe, il se trouve que vous êtes le seul à accepter ce stage.
Oui, j'étais le seul à accepter ce stage parce que les gens qui étaient promus à un brillant avenir, donc auquel l'armée avait payé l'école de guerre sous sa version brevet technique de langue, trouvaient que ça n'était pas assez bien pour eux d'aller en Jordanie.
L'arabe, c'est pas...
L'arabe, ils en faisaient, mais ils préféraient aller au Caire ou à Khartoum, parce que là, c'était 2 ans en solde à l'étranger, avec la femme et les enfants, voyage payé, alors que moi, bon, j'étais en frais de mission et j'ai payé le voyage de ma femme et de mes enfants. Quand je dis j'ai payé, c'est ma famille, c'est-à-dire ma femme et moi, parce que en fait, nous sommes sous la communauté légale, c'est avec nos économies.
Et en plus, non seulement, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas un choix, enfin, il y a un choix personnel quand vous décidez de partir avec votre famille. Mais c'est aussi vos supérieurs qui vous disent, c'est pas possible d'être célibataire là-bas parce que les Jordaniens l'acceptent pas, ils se méfient, ils n'aiment pas les célibataires, donc il faut que vous partiez avec votre femme. Alors donc vous avez payé vos enfants, vous avez payé le voyage, les écoles, le déménagement.
Absolument. Et puis ma femme s'est mise en disponibilité pour me suivre. C'est-à-dire qu'elle a perdu sur sa carrière, comme en Belgique. Je suis parti en Belgique. Bon, effectivement, ma femme s'est mise en disponibilité. Or, elle a bien eu tort. Pourquoi elle a eu tort? Mais parce que j'avais des camarades en Belgique qui avaient dit que leurs femmes les suivraient, puis les femmes sont restées à travailler en France. Ah, vous savez, la Belgique, la France, ça se fait vite.
Oui, ça c'est 2 heures. Hein.
Et quand on voit en plus ce qui m'est arrivé en Belgique, eh bien, je comprends tout à fait que ma femme les saumâtre d'avoir perdu 2 ans de carrière.
Alors, pour en revenir pour en rester pour l'instant à l'expérience jordanienne qui est passionnante et qui est vraiment intéressante à lire parce que on voit, moi j'ai découvert par exemple en lisant ça, qu'il y avait une véritable solidarité des armes entre des gens qui normalement ne devaient avoir aucune solidarité.
Absolument.
Vous racontez des déjeuners où il y a un Jordanien, un Syrien, un Irakien, un Soudanais, enfin,
et
vous, au milieu de tout ça, et qui avez, comme vous parlez un bon arabe, ils s'en aperçoivent assez rapidement et ça leur fait plaisir.
Ben voilà.
Et il y a un phénomène de sympathie qui joue un phénomène de clan.
Oui. Et c'est moi, je me souviens que quand la guerre des villes faisait rage, donc j'étais à ce moment-là à l'école de guerre jordanienne, eh bien, j'écoutais les nouvelles sur la radio britannique en arabe, parce que c'est là qu'on avait le plus de nouvelles, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il en advenait des familles de mes camarades irakiens qui étaient là.
C'est ça. Et il vous présente, à un moment, on vous présente une espèce de sage.
Oui, c'est un sous-officier qui était en fait... Bon, militairement, il était sous-officier, mais en fait, c'était un peu le... Il était l'aïeul de 8 des officiers qui étaient là
voilà,
le soir.
Ça, c'est stupéfiant.
Bon. Ah ben bah, là, il y a un sens de la famille extraordinaire. Là, vous vous rendez compte de ce que c'est que l'accueil. Alors, si vous voulez, dans un livre comme ça, on peut pas tout mettre. Sinon, j'aurais fait l'encyclopédia universaliste. Mon prochain livre, qui traitera vraisemblablement de mon métier d'aide de camp, interprète, chef de cabinet, donc un métier beaucoup plus politico-militaire, prendra aussi ses sources en Jordanie. Voilà. Parce que le métier que j'ai fait, sous la pression française, puisque les Français voulaient savoir des tas de choses, c'est normal, après tout, j'étais payé pour ça. Eh bien, l'aspect international, ma formation internationale, c'est quand même les Jordaniens qui me l'ont donné. Je garde, moi, pour l'armée jordanienne, qu'on appelle la Légion arabe, Firq al-Arabi, je garde beaucoup, beaucoup, beaucoup de...
Ça se sent, beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié, de respect.
Et si vous voulez, quand nous avons quitté la Jordanie, ma femme et moi, il était temps que de partir, parce que on était en train de prendre le complexe de l'ambassadeur.
Est-ce que votre femme a appris l'arabe là-bas ?
Non, ma femme n'a pas appris l'arabe.
Et les enfants ?
Alors les enfants, oui, apprenaient quelques mots d'arabe, mais comme ils ont appris quelques mots d'hébreu quand j'étais en Palestine. Mais ma femme avait les mots qu'il fallait pour arriver à se débrouiller dans le souk. Elle allait faire ses courses toute seule, hein, donc un peu d'anglais, un peu d'arabe, mais elle a ce contact humain qui a fait sans doute que nous sommes entendus, parce qu'on a des tempéraments vifs tous les deux, mais et nous sommes restés ensemble malgré toutes les vicissitudes de la vie, et je crois qu'elle a cet art du contact humain qui, de toute façon, lui sert professionnellement maintenant.
Alors, il y a une chose qui m'a frappé aussi, c'est... il y a deux choses. D'abord, le fait, comme je le disais, qu'il y a cette amitié qui naît avec ces gens-là.
Un esprit de fraternité.
Et une véritable camaraderie.
Oui, oui.
Bon,
oui.
Camaraderie militaire.
Militaire.
Mais en même temps... Vous avez un boulot à faire.
J'ai un boulot à faire.
Et ce boulot est contradictoire avec cette camaraderie.
D'ailleurs, je le mets. Je l'écris dans mon texte. Hein, quand il faut que je compte les hélicoptères...
Alors, ça, c'est irrésistible, parce que je voulais y venir après.
Eh bien, quand je pars le matin, que je quitte la maison, que je monte dans le bus, j'ai ce fourmillement au cœur de l'estomac. Parce que, en fait, bon, ce sont mes camarades de tous les jours. J'ai partagé le ramadan avec eux, alors que je suis chrétien. Mais il faut faire le métier. Or, ça ne m'a jamais posé de problème moral. C'était mon métier. De même que la guerre du Golfe, j'y ai participé avec la loyauté la plus absolue envers mes autorités françaises, alors que j'étais dès le départ contre cette guerre.
Alors, donc il y a ce sentiment. Là, voilà, ça c'est frappant. C'est le fait que vous allez retrouver des camarades que vous retrouvez tous les jours. Mais ce jour-là, votre supérieur vous a demandé de faire quelque chose. Il sait qu'il y a des hélicoptères qui arrivent. Mm-hmm. Et il veut savoir combien. Bon, c'est quand même pas la mission, c'est pas James Bond. Hein.
Ah ben non.
Mais il faut compter les hélicoptères, ceux qui sont là, et essayer de savoir
combien il va y en avoir
qui vont arriver.
Ben voilà.
Et alors là, on touche du doigt le caractère.
Bricolage,
mais moins que bricolage, le caractère écolier de copie par-dessus l'épaule du voisin, puisque vous allez là-bas, vous êtes invité pour visiter un truc dans le cadre de votre mission, et à un moment, je le raconte, bon, on le lira dans votre livre, parce qu'il faut lire ce livre, il est formidable, mais vous passez devant un bureau où vous voyez sur le mur... Les trucs qu'on voit dans tous les services des armées, c'est-à-dire ces espèces de plaques métalliques dans lesquelles on glisse des petits cartons, et puis il y a un endroit où il y a marqué hélicoptère, et on voit, vous voyez qu'il y en a 18 qui sont arrivés, mais qu'il y a de la place pour en mettre, je ne sais pas combien de plus.
Il y avait la place pour 18 et il y en avait 15 d'arrivée,
quelque chose comme ça.
Et en plus, la position des uns et des autres,
voilà.
Où
alors,
ils étaient.
Vous regardez ça pendant un moment à travers la vitre du bureau, et puis vous rejoignez vos camarades. Et à ce moment-là, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui
me regarde.
Ça bizarre. Et vous vous levez pour aller faire pipi.
Exactement.
Ça, c'est notre
truc.
En disant, alors le gars comprend que
j'ai cherché les.
Tout à l'heure, vous cherchiez les toilettes.
Ce que je cherchais dans la porte du bureau, c'était les toilettes.
Mais alors,
et il a fallu que j'explique que chez nous, qui sommes des vrais fascistes dans notre armée, souvent les toilettes sont au fond du bureau pour que le sous-officier chef d'atelier puisse vérifier qu'on n'y reste pas longtemps. C'est complètement faux. Hein.
Oui,
mais bon. Voilà. Mais il faut rassurer tout le monde.
Pour un lecteur qui a dont le seul contact avec le monde du service du renseignement et des services secrets, c'est la lecture des aventures du Berbonisor de la base. Soldat, alias OSS 117, ou plus récemment de James Bond, alias 007, c'est évident que entre l'image du type qui boit un verre de champagne sanglé dans un
costume d'alpaga
impeccable, en tenant dans ses bras une belle russe, et l'officier qui traverse un atelier en disant je vais faire pipi et qui copie la liste des hélicoptères, il y a comme un fossé. Mais ce qui est bien, c'est que vous le racontez comme ça, sans aucun appareil, sans aucune affaîtrie. Enfin, vous le racontez comme ça.
Ça s'est passé comme ça.
Et vous, vous déclarez chrétien, en même temps vous dites que vous avez fait le ramadan dans un pays occupé par l'islam, de qui vous moquez-vous? C'est pas un pays occupé par l'islam.
Non, c'est un pays musulman les chrétiens peuvent vivre complètement librement. Ouais. Je suggère au monsieur qui vient de dire ça, que je respecte totalement, de lire mon livre et qu'il mesure à ce moment-là comment au moment de Pâques, mes camarades musulmans m'ont incité à prendre la permission réglementaire.
Ah oui, ça c'est
donc drôle. C'est le dimanche de Pâques. Je suis donc allé à la messe. Je suis désolé, je suis allé à la messe dans le rite grec catholique. C'est-à-dire, ça ressemble à l'orthodoxe, mais ça dépend de Rome. J'y suis allé avec un ami arabe qui parle le français avec l'accent de Lille, qui est un médecin endocrinologue de haute spécialité, qui est un Palestinien. Et quand j'ai eu fini donc avec la messe, je suis rentré chez moi, nous avons déjeuné en famille, et vers 15h, quand les cours étaient finis, puisque moi j'étais en permission mais que les cours continuaient, mes amis musulmans sont venus me souhaiter une bonne fête.
Alors vous dites qu'ils vous ont marqué une considération spéciale du fait que vous aviez pris cette journée à laquelle vous aviez droit, mais que vous étiez réellement allé à la messe.
Absolument.
C'est-à-dire, vous n'aviez pas pris la journée pour vous débiner à la campagne avec les enfants et la maman, mais vous étiez réellement allé à la messe. Et ça, on voit très bien effectivement comment fonctionne une société traditionnellement religieuse qui est restée attachée à ses principes et qui dit, ce type, il prend une journée pour aller à la messe et il y va, c'est donc un type bien.
Exactement. Et,
voilà. Alors, ça, bon, j'ai insisté un peu sur ces anecdotes parce que, pour moi, c'est ce qui fait, c'est pourquoi je vous ai dit au début que j'ai trouvé ce livre meilleur que le précédent, parce qu'il a cette dimension humaine, cette charge affective.
Parce que le premier, si vous voulez, c'est la relation de situation d'exception et critique. Hein, c'est la guerre en Bosnie, telle que je l'ai faite comme officier de renseignement. Ensuite, c'est la guerre diplomatique à l'OTAN. Alors que là, c'est une vie de tous les jours, parce qu'il faut avoir l'air naturel quand on fait du renseignement, et que, en fait, tous les acquis, toute cette mise en place a fait que les gens m'ont fait confiance. Et en même temps, ils m'ont appris tellement de choses que après, dans mes campagnes que je raconte aussi dans ce livre, l'expérience que j'ai appris dans ce stage tout à fait particulier, nous étions quand même de 13 nationalités. Nous étions 2 non-arabes, le Pakistanais et moi. Nous étions 4 chrétiens, 2 Jordaniens, le Libanais et moi. Et en fait, donc, si vous voulez, c'est là la base de mon appréhension internationale du monde militaire. Et ça m'a énormément servi après quand j'ai travaillé aux Nations Unies, puis à l'OTAN.
Oui, je sais, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il aussi, il faudrait pas limiter le livre aux anecdotes que je viens de vous demander de raconter. Il y a une dimension qui est très intéressante. C'est justement ça. C'est cette espèce de pénétration que vous permettez au lecteur de faire des habitudes, des comportements, des pratiques des services de renseignement. Comment travaillent les services français? Parce que comme vous le dites en tête de chapitre, les Français ne font jamais rien comme les autres.
Ah, jamais.
Ça, c'est très amusant aussi. Alors, il y a un mélange de relations personnelles, de nécessités diplomatiques, d'exigences tactiques, de relationnels, tout ça est une espèce de bouillabaisse invraisemblable. Ça marche ou ça marche pas.
Eh oui.
Mais c'est formidable. C'est vraiment un bouquin passionnant. Il y a des révélations. Il y a un chapitre sur la coopération soviéto-américaine contre Saddam Hussein.
Ah bah là,
où on voit comment deux gangs mafieux ont décidé de mettre à mort le chef d'une troisième bande. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer.
On peut régler ça comme ça. Mais enfin, le gros problème, c'est qu'après ça, ce sont les peuples civils qui dérouillent.
Bah bien sûr, ça, c'est évident. Et il y a alors un chapitre sur les écoutes, les systèmes d'écoute français et les systèmes techniques.
Et quand, je ne sais pas si les auditeurs se souviendront, pour ceux qui ont regardé Paris Match à l'époque, il y a eu une grande double page où Schwarzkopf est cité par le journaliste en disant « les Français ont fait un boulot magnifique ». Alors évidemment, c'est juste après la charge d'As Salman, etc. Mais en fait, ça remonte à bien d'autres choses. Et je suis particulièrement fier, en fait, de la façon dont les Français ont travaillé techniquement. Alors, je répète, je précise, j'ai toujours été contre cette guerre. Mmh. Mais la façon dont les Français l'ont fait, avec les moyens qu'ils avaient, moi, je leur tire mon chapeau. De toute façon, les Anglais ne s'y sont pas trompés. Je me souviens d'avoir traduit pour le général commandant de notre armée de l'air un article élogieux des Britanniques, c'est très rare, comparant l'esprit d'adaptation des aviateurs français engagés avec leurs vieux Jaguars au-dessus du Koweït et de l'Irak à l'esprit qui avait animé les pilotes britanniques et leurs alliés de la bataille d'Angleterre.
Ouais. Donc, et pour ceux qui n'ont pas oublié les célèbres photographies de M. Kouchner en porteur de sac de riz, je recommande particulièrement le chapitre 14, qui est intitulé « Opération discrète en milieu multinational », et dont les sous-titres sont « Du riz pour la Somalie ». Alors là,
voilà, parce
là
que...
je ne sais pas si M. Kouchner est votre ami, mais je suis pas absolument certain qu'il le reste longtemps après ça, quand même.
Bah, écoutez, moi, je dis ce que j'ai vu.
Oui. Hein,
bon, c'est à lui de choisir. S'il a choisi mal ses conseillers. Mais il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que ce livre, en fait, part d'une première prise de contact au cours d'un stage à la DGSE avec le renseignement. Et en fait, c'est l'expérience, c'est un résumé de 13 ans et demi d'expérience dans ce monde tout à fait particulier qui me conduit au contact étroit avec les entreprises humanitaires. Alors, avec les gens qui, sur le terrain, appartiennent aux ONG et les gens qui, comme partout et toujours, dans les états-majors bien confortables de l'intérieur du boulevard périphérique ou équivalent d'autres pays, eux tirent la gloire et le pouvoir du travail qui est fait par des gens généreux et abusés sur le terrain. Alors, là, ça me paraît clair, le riz est emblématique, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est pas moi qui ai choisi ce riz qu'aucun Somali ne peut
manger. Mangé, bien sûr.
Ben, ils peuvent pas. Et j'explique pourquoi et ça paraîtra lumineux. Et surtout, moi, ce qui m'énerve, c'est que ce riz a permis, par moyen d'échange, d'être transformé en munitions.
Et en crate,
donc cette espèce de drogue yéménite que broutent les Djiboutiens quand l'avion arrive de Aden.
Voilà, j'espère que je vous ai donné, chers auditeurs, l'envie de lire Mes services secrets, souvenirs d'un agent de Londres de Pierre-Henri Bunel, parce que c'est vraiment un bon bouquin. Il y a des photos qui sont intéressantes aussi, qui permettent de voir comment on utilise une photo sur le plan de la propagande, notamment une photo d'un soldat irakien devant un char
de fabrication française
avec des obus français à ses pieds. Moi qui suis un tout petit peu technicien de ça, je vous dis que ça m'a tout à fait l'air d'un truc fabriqué entièrement à la main.
Ça pourrait ressembler à ça,
voilà.
Mais j'ai la diapo d'origine avec laquelle j'ai pu prendre... C'est une diapo d'une photo que m'a montré un Irakien. Mais alors, si vous voulez, ce livre, on le trouve dans les librairies. Souvent il faut le commander parce qu'ils en ont peu à la fois. Il y a des supermarchés qui l'ont, il y a des chaînes de magasins comme la Fnac qui l'ont. J'en fais une séance de signature pour les gens qui habitent la région de Maison Lafitte, enfin les autres peuvent venir aussi, samedi. Alors samedi de 10h à midi, de 14h à 16h et dimanche matin. Alors ça aura lieu en fait à Maison Lafitte, à la librairie du château. Alors, pour ceux qui m'ont accusé d'être un méchant pro-serbe, je suis pas un méchant pro-serbe, je suis pour tous les gens qui sont patriotes et qui sont broyés par la raison d'État. La librairie du château à Maison Lafitte est tenue par un ami à moi, qui est musulman.
Alors, décidément, vous avez bien curieuse fréquentation, mon commandant.
Il restera... Alors là, j'en suis ma propriété personnelle, mais je peux les céder. Il reste quelques exemplaires de mon premier livre, qui s'appelait « Crimes de guerre à l'OTAN », car celui-là a une aventure, une histoire tout à fait particulière. Il a été retiré de la vente, alors que le retirage destiné à remplir les commandes des libraires venait d'être fait. Il a été retiré de la vente le 1er mars, et l'éditeur a été obligé de demander aux libraires de renvoyer les invendus. Sur pression d'ailleurs.
Voilà.
Je voudrais parler d'un livre.
Oui.
Un dernier. Alors lui, il m'a flashé. Il m'a fait flasher. C'est un livre qui s'appelle Compostelle. Ce livre, à mon avis, mériterait d'être étudié ici. C'est un monsieur Jean Mouillot qui l'a écrit. Jean Mouillot qui, au moment de prendre sa retraite, s'est trouvé comme le cheval de course, quand il a plus, de bridon, il s'est trouvé devant un grand trou. Il est parti à Compostelle. Serge, vous nous avez parlé d'un numéro de l'itinérant que je me suis procuré avec un article. J'ai parfaitement compris ce que vous avez dit. Eh bien, ce carnet de route, parce que j'en ai lu des trucs sur Compostelle, ce carnet de route, c'est exactement la même chose, le type le raconte.
Mais il faut nous l'amener.
C'est fabuleux.
Si vous le connaissez.
Alors, je le connais. J'ai pris un pot avec lui lundi après-midi. Et je sais qu'il a envoyé ici, il a envoyé un exemplaire de son livre. Mais ce livre est extraordinaire. Il paye pas de mine. Mais alors, le contenu, d'abord, c'est écrit comme un carnet de route. Et c'est vraiment... On comprend la différence entre un exploit sportif et un vrai pèlerinage réussi. C'est fabuleux.
Merci, oui, c'est bien. On invite un auteur, il parle du livre d'un autre. C'est quand même formidable. Ça, c'est une conception altruiste du métier.
Dernier mot sur Compostelle, il est édité à compte d'auteur, mais il est référencé à la FNAC. Voilà, moi je l'ai trouvé à la FNAC. Et on peut le trouver dans certaines maisons de la presse. Celle de Parly 2.
Merci Pierre-Henri Bunel. Mes services secrets, souvenirs d'un agent de l'ombre, c'est paru chez Flammarion et on peut les commander, le commander à Saint-Antoine, 4 place France Litz, le livre service Saint-Antoine. C'est maintenant nos lecteurs auditeurs commencent à être habitués. Madame Darmaillet, bonsoir.
Alors, bonsoir Serge Beckett.
Vous venez nous parler de l'école au destiné de laquelle vous présidez, qui s'appelle l'école Charles de Foucault. On en avait parlé avant sa création, on en a parlé après sa création.
Oui.
Et maintenant, vous êtes en train de lui donner une nouvelle extension.
Je suis en train de lui donner une nouvelle extension et j'ai envie d'appeler ça, et je l'ai appelé l'opération Foucault, ça tombe bien après tout ce que nous venons d'entendre. L'opération Foucault, c'est un aspect un peu viril, parce que l'opération est quand même audacieuse. Il s'agit, nous avons mis la main sur une parcelle de 1000 m² en plein Saint-Maur, et nous allons transformer un entrepôt en briques de 11 avec des poutrelles métalliques des années 50 en école. Nous allons confectionner 7 classes à l'intérieur, et donc je suis à la tête d'un chantier, enfin... L'architecte est à la tête d'un chantier, mais moi je suis quand même chargée avec les membres de l'association de trouver le financement.
Alors cette classe de quel âge à quel âge?
Alors les enfants, je les accueille depuis la moyenne maternelle jusqu'au CM2, c'est-à-dire en gros de 4 ans à 11 ans.
Ce qu'on appelait l'école communale.
Voilà, c'est ça, c'est une école primaire mixte.
Et combien d'élèves?
Et actuellement j'ai 68 enfants, et avec ce local-là je pourrais en accueillir 140.
Et vous avez des demandes, j'imagine.
Ah
parce
oui,
parce que
bien
si
sûr.
J'en crois les appels que je reçois au Libre Journal et les lettres que je reçois, il y a beaucoup de gens.
Et puis le fait d'avoir un plus grand local me permettra d'en accueillir davantage. Nous sommes partis sur l'idée que le vide appelait le plein.
Donc, pour parler clairement, vous venez lancer un appel.
Oui, je viens lancer un appel. Je profite des ondes de Radio Courtoisie pour appeler les auditeurs, les patrons, les chefs d'entreprise, et bien soutenir une entreprise. C'est vraiment pas un combat d'arrière-garde que nous menons. Nous sommes en première ligne parce que si les enfants ne savent plus lire, si on ne leur apprend plus l'histoire de leur pays, s'ils ne connaissent pas la géographie de leur pays, moi je ne vois pas comment ce qui va présider aux destinées de notre pays. Je ne le comprends pas. Or, actuellement, ce que l'on est en train de faire, c'est de mutiler à grande échelle des enfants qui se retrouvent dans des cabinets d'orthophonistes pour apprendre à lire tout cela parce qu'on les soumet à une méthode globale.
Quelle méthode utilisez-vous ?
Alors moi, j'utilise évidemment la bonne et bienheureuse méthode syllabique. On commence à apprendre les lettres, après on est dans les syllabes, on lit les syllabes, on arrive à des mots, et quand on arrive à des mots, bien ça y est, on sait lire.
Ça prend 3 mois.
Voilà. Enfin, non, soyons honnêtes, je prends des enfants en septembre, ils savent lire à Pâques.
Oui,
ils savent lire à Pâques, mais c'est un bonheur.
Alors, vous avez besoin de combien de sous pour continuer?
Oh là là, j'ai un chantier qui a été estimé à plus de 1,2 million, et donc il faut que je trouve, alors j'ai déjà trouvé une partie, mais il me reste à trouver quand même encore une somme importante, et je fais appel aux bienfaiteurs.
Vous faites appel à des dons, à
oui,
des prêts?
Je fais appel à des dons, à moins que des chefs d'entreprise puissent me proposer, comme l'un l'a fait déjà ici à Radio Courtoisie, m'a proposé des carrelages sanitaires, ce qui est très intéressant. On peut aussi m'aider de cette manière-là.
Alors, l'adresse, et puis on
alors, l'adresse, eh bien écoutez, École Charles de Foucault, 24 avenue Michelet, 94 210 La Varenne, le numéro de téléphone 01 42 83 66 69, et si vous voulez libeller des chèques, merci de le faire à l'ordre de Amitié Foucault, ce qui veut dire beaucoup de choses, donc une amitié française.
Amitié. Puis je pense que comme Charles de Foucault vient d'être...
ça y est, c'est un...
Ses vertus héroïques viennent d'être reconnues.
Voilà, alors j'attends beaucoup de l'intercession de Charles de Foucault.
Merci beaucoup, Anne-Normand.
Je vous remercie, Serge Beckett.
À vous, ma chère Victoria,
messe
pour les annonces.
Messe d'enterrement demain, jeudi, à 10h30, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, pour Madame Nicolas, une des plus anciennes paroissiales et fidèles paroissiales de Saint-Nicolas, donc, à la suite de l'incendie de son immeuble. Dimanche, oh là là, Madame Nicolas sera enterrée au cimetière de Pantin après la messe des obsèques. Personne n'a rien compris. Hein.
Si, si, il y a une messe pour Madame Nicolas.
Jacques Arnoux, du Cœur Montjoie, nous signale que le mercredi 2 mai chez la mère agitée, un convive a emporté par mégarde un carnet de chant de couverture noire. Il serait très, très, très content si vous vouliez bien lui rapporter.
Rendez
merci.
Les chants.
Le concert de Tancrède aura lieu ce soir 30 mai et demain jeudi au Théâtre des Déchargeurs, 3 rue des Déchargeurs, à métro Châtelet, à 20h30. La maîtrise des petits chanteurs de Versailles interprétera le Requiem opus 48 de Gabriel Fauré, cantique de Jean Racine Mottet, César Franck Mottet, le mardi 5 juin à 20h45 en l'église Notre-Dame de Versailles et le jeudi 7 juin, toujours à 20h45, en l'église Saint-Christophe de Javel, à Paris, métro Javel André Citroën. Abandonnez le franc, jamais. Venez assister à la conférence d'information organisée à Chartres le vendredi 8 juin à 20h, dans les salons de l'hôtel Châtelet, 6 avenue de Beauce, près de la gare. Vous en repartirez en connaissant les moyens d'empêcher individuellement et collectivement la disparition du franc. Accueil à partir de 19h15, place limitée. L'Alliance Royale organise le samedi 8 juin à 20h30 dans la salle des fêtes de Montfermeil.
C'est un samedi 9 juin d'ailleurs. 8.
Le samedi 9 juin, oui. Une grande réunion publique présidée par M. Pierre Bernard, maire de Montfermeil. M. Yves-Marie Adeline, président de l'Alliance Royale, traitera le sujet « L'avenir de la France et la monarchie ». Renseignements, invitation sur demande au 01 30 24 60 47. Roger Olin, président du Cercle National des Combattants, vous invite à venir passer la journée du dimanche 10 juin de 8h30 à 20h au château de Neuvy-sur-Barangeon pour la 15e grande fête champêtre et familiale. Ça commencera à 10h30 par une messe traditionnelle, avec il y aura beaucoup de stands,
toujours,
de restaurants, un spectacle avec le Cœur Montjoie Saint-Denis. À 16h30, intervention de Roger Olindre et à 17h, discours de Jean-Marie Le Pen. Réservation et renseignements au 01 40 59 07 66 de 14 à 17h30 du lundi au vendredi.
Merci. Le délai qui nous est imparti est épuisé. Je vous remercie de nous avoir prêté votre attention si longtemps. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz, 6 à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 30 mai 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 31 mai.